Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, toujours autant ravi de vous retrouver chaque lundi hein, de 19h à 20h30 pour votre émission de sport favorite et bien connue maintenant sur Mon Paris FM. Alors on n'avait pas été là la semaine dernière, c'était un petit week-end de repos avec le week-end de Pâques. Par contre on s'était quitté il y a 15 jours en parlant donc de sport de combat et de MMA avec Loïc Porra. Eh bien on va continuer, c'est le hasard des dates, c'est le hasard du calendrier, à parler sport de combat avec aujourd'hui le président de Paris Lutte Olympique, Nicolas Rougon, que je salue. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous, on est très omnisports hein, sur Mon Paris Sport, donc on parle de tout.
Écoutez, merci déjà de cette invitation. Merci de cette opportunité d'éclairer voilà. Un sport qui est finalement bien connu, au moins en nom, mais peu montré en France.
Oui.
Donc, on va le découvrir avec vous.
Très bien. Donc, ça sera naturellement le menu essentiel de cette émission, mais on reviendra aussi sur les grands faits sportifs de cette quinzaine avec Valentin. Et puis je veux saluer Abou ce soir. C'est le seul de l'équipe foot. On a perdu notre trio. C'est le seul attaquant de pointe qui reste.
Et je fais, mon entrée de jeu dans les temps additionnels. Hein. Normalement,
oui.
voilà, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de blessés. J'ai mis le maillot.
Ah, ça va, Abou, tu es en pleine forme?
Bon, ça va, la forme, ouais. ça va.
Très bien. Alors, on va. C'est une tradition. Alors, je sais que vous n'aimez pas trop le foot. Hein.
Ah non, il ne faut pas dire ça.
Ah bon?
Mais rien n'arrête le foot, donc à tout seigneur, tout honneur.
Ah d'accord, ok. Bon, alors, parce qu'on a une tradition, on commence par la page foot. On a une quinzaine de foot, naturellement, qu'on doit commenter au niveau de l'actualité. Donc on va commencer par le faire et on va naturellement eh bien, parler au tout début des Coupes d'Europe. Hein. Ça a été la première quinzaine des Coupes d'Europe. D'abord, Abou, comment tu as vécu cette quinzaine de Coupes d'Europe d'une façon générale, avant qu'on dissèque donc tous les résultats?
C'était une très belle quinzaine de Coupes d'Europe. On a vu de très très beaux matchs, des matchs de très très haut niveau. On a vu hein, le City de Guardiola, on a vu même Benfica contre
l'Inter.
Ouais. On voyait plus Benfica ici avec Eladj, on l'avait dit lors des précédentes émissions. Finalement, on se rend compte que la Ligue des Champions, c'est le football, de manière générale, en tout cas, ça ne nous offre jamais ce à quoi on s'attend. Naples-Milan, pareil, on voyait tous Naples écraser le Milan. On a vu le Milan écraser Naples en championnat et encore une fois recommencer en Ligue des Champions, en plus avec un carton rouge pour Naples. Donc, c'était une très, très belle, une quinzaine de Coupes d'Europe, franchement, formidable. Et ça montre à quel point le foot est un des sports les plus imprévisibles. Il n'y a pas de petit ou de grand, tout le monde peut battre tout le monde. Et c'est ça qui rend ce sport génial. Ouais,
absolument. Donc, Manchester City qui a battu le Bayern 3-0. On peut penser que les carottes sont cuites hein, pour le Bayern. Manchester donc City devrait se qualifier cette semaine pour le match.
En tout cas, ça va être très, très compliqué pour les Munichois, surtout quand on a vu le contenu du match.
Ouais, ouais,
autant
ouais.
Le score, on se dit 3-0, pourquoi pas. On a déjà vu d'autres scores en Ligue des Champions être remontés. Mais quand on voit le contenu, on voit la supériorité des hommes de Guardiola. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Philippe. Je pense que les carottes sont cuites.
Oui, et puis Manchester City devrait retrouver le Real Madrid en demi-finale, hein, le Real qui a battu Chelsea 2-0. On imagine quand même difficilement Chelsea aussi renverser la situation face à Madrid, mais sait-on jamais.
Attention, on l'a vu l'année dernière, Chelsea et le Real qui étaient déjà en confrontation. On a vu les Blues qui avaient réussi à ramener le Real en prolongation. Après, cette année, ça m'a l'air d'être quand même différent. Ce n'est pas la même équipe, ce n'est pas le même état d'esprit. On en est déjà au troisième ou quatrième coach à Chelsea, je crois, depuis le début de la saison. On a une équipe qui n'a pas encore réussi à s'entendre collectivement. Donc, à mon avis, ça va être tout fait pour les hommes d'Ancelotti. Et surtout, le Real a l'expérience de ces matchs-là. Mais heureusement, il y a eu 2-0 quand même. Parce qu'ils auraient pu, attention à ne pas regretter les occasions loupées lors du match aller. Parce que normalement, ce match, il doit finir à 3 ou 4-0 facilement.
Donc, on risque d'avoir un Manchester City-Real Madrid en
remake demi-finale. De la demi-finale de l'année dernière. On va se régaler. Et c'est ça qu'on aime en Ligue des Champions. Et moi, j'entends souvent des gens dire « Ouais, mais on a déjà vu le match l'année dernière, ça nous fatigue. » Mais quand tu as deux équipes de ce niveau-là, d'une année à l'autre, c'est jamais les mêmes matchs, donc ça va être un plaisir visuel pour tous les fans de foot et même ceux qui ne sont pas des férus de football. Voilà.
Et puis on verra ça en tout cas la semaine prochaine, mais très souvent, on voit que la décision, elle se fait pour 50% au match aller. Vous voyez, comme quoi, là encore...
C'est des matchs très importants.
Ouais. Mais, contrairement à ce qu'on croit, on voit que finalement, Manchester 3-0 devant le Bayern, le Real devant Chelsea 2-0, et puis l'Inter donc, qui est allé gagner à Benfica 2-0. Ça, c'est peut-être un petit peu... J'allais dire une demi-surprise.
C'est
une belle équipe. Hein.
C'est très très belle équipe, Benfica, très très belle équipe. Et c'est surtout une surprise quand on voit le niveau de l'Inter cette saison qui est en championnat.
Cinquième,
des hauts, des bas. C'est pas trop cohérent l'équipe. Lukaku qui performe pas plus que ça. D'ailleurs, on parle de pas le garder à la fin de la saison et qui retourne à Chelsea. Donc. Moi, franchement, et avec Eladj, encore une fois, on s'attendait à ce que le Benfica fasse le travail. On nous montre en fait que non, le football est tout autre et on pourra assister à une demi-finale
milanaise.
Ouais, un derby milanais à San Siro entre les deux grands clubs de Milan. Et encore une fois, c'est une demi-finale exceptionnelle.
Entre le rouge et noir.
Et noir. Et c'est une finale exceptionnelle. Personne va cracher sur une demi-finale de ce niveau-là. Même si les puristes du football, on aurait aimé que Benfica passe d'un côté et Naples de l'autre.
Ouais. Mais attention quand même, AC Milan-Naples, 1-0 seulement après le match aller. C'est peut-être le match le plus indécis pour ce match retour. Et Naples, c'est une équipe qui est dans une dynamique actuellement.
C'est ça, avec le retour en plus de Victor Osimhen qui va faire énormément de bien. Mais moi, ce qui me fait dire que le Napoli va sortir, c'est l'absence de Zambo Anguissa, d'ailleurs, qui s'est excusé à la fin du match auprès de ses coéquipiers. Et Zambo Anguissa qui prend un carton rouge. Donc, ça va être compliqué. Et je voulais en profiter, d'ailleurs, pour condamner les supporters de l'Inter Milan qui ont menacé le fils de l'international français, Théo Hernandez. On va tuer ton fils, on va te retrouver, tout ça pour un match de football. Messieurs, ça reste que du football. On sait que la passion à Naples, elle est débordante.
Quand même.
Ça fait leur charme parfois, mais quand ça va jusque-là, c'est qu'il y a un problème quelque part.
En tout cas, c'est le retour en force du foot italien quand même.
C'est ça. Et le foot italien qu'on pensait enterrer. On pensait avec le déclin de la Juve, le déclin des 2000 ans les années précédentes, on se disait que le foot italien, c'était fini. Il nous montre encore une fois qu'en fait, le seul foot à la ramasse, c'est un peu le foot français, malheureusement. On n'y arrive pas.
On va en parler avec
lui tout à l'heure. Ça fait plaisir de voir le calcio à ce niveau-là.
Ouais. Alors, en Ligue Europa, on a eu la victoire de Feyenoord devant l'AS Rome, donc autre club italien, 1-0. Donc, tout est possible pour le match retour. La Juventus de Turin, justement, qui bat le Sporting du Portugal 1-0. Là aussi, match indécis pour match retour. Manchester United, Séville, ça, c'était une belle affiche, 2-2. Manchester a mené et puis s'est fait rattraper par Séville.
C'est revenu. Et en plus, le plus dur pour Manchester, tu perds tes deux défenseurs centraux titulaires pour la fin de la saison. Raphaël Varane et Lisandro Martinez qui sortent blessés. Après, c'est deux buts contre leur camp, Malacia et comment il s'appelle, Maguire qui marque contre leur camp. Et j'ai envie de vous dire, Séville sont habitués en fait aux matchs de Coupe d'Europe. La Ligue Europa, c'est à eux, c'est leur trophée. Donc franchement, moi, si j'avais une petite pièce à mettre, je mettrais plus sur Séville quand même.
Ils vont jouer chez eux, en plus,
ils sont à la maison, des habitués de la Coupe d'Europe, avec deux gros absents du côté de Manchester. Manchester qui joue sa qualification en Ligue des Champions à travers le championnat également. Et qui ont déjà un trophée cette saison, ils ont gagné une coupe. Donc à mon avis, ils vont tout miser sur le championnat. Donc ils vont tout miser sur le championnat et laisser, je pense, la Ligue Europa.
Et puis Bayern, Leverkusen, donc Union Saint-Gilloise, ça c'est une équipe belge quand même, c'est incroyable. Les Belges sont là,
c'est pour ça qu'on est inquiet pour le football français. Et si même les Belges, nos voisins belges, ceux qu'on aime bien chambrer, on l'avait vu lors de la Coupe du Monde 2018, si même eux arrivent à mettre des équipes à ce niveau-là, c'est inquiétant pour le foot français. Et pourtant, on assiste à un championnat qui est relativement beau, assez serré, etc.
Bien meilleur qu'il y a quelques saisons.
Donc c'est étonnant qu'on ne retrouve pas ça en Coupe d'Europe. Je ne sais pas où est le mal-être, mais il va falloir remédier à ça.
Oui, mais on en reparlera, on fera un bilan spécial Ligue 1 au lendemain de la fin des championnats et on essaiera de disséquer pourquoi ce championnat qui est quand même meilleur, plus offensif depuis quelques saisons, avec des stars quand même du ballon, et pourquoi en Coupe d'Europe les résultats ne sont pas meilleurs qu'il y a quelques années.
Il y a un mal-être, un syndrome, je ne sais pas ce qui se passe exactement, je ne sais pas si... Peut-être que c'est nous qui voyons trop beau notre championnat, ou est-ce que, comme tu le dis, Philippe, un problème de culture.
Oui, je pense.
Mais en tout cas, il y a quelque chose à faire parce que c'est pas possible. À l'indice UEFA, Et les mecs derrière, ils charbonnent et ils vont finir par nous rattraper.
Les Pays-Bas ont dépassé le Portugal. Hein,
donc, et les Pays-Bas qui arrivent droit sur la France. Donc, va falloir faire attention. On parle de la France comme un des cinq grands championnats. Attention à ne pas passer 6 ou 7e.
En tout cas, en Ligue Europa, on voit que tous les matchs sont indécis. Hein, pour le match retour.
C'est ça, tous les matchs sont indécis.
Très serrés, hein.
Tous les matchs sont indécis. Après, moi je pense que la Roma va passer. D'ailleurs, avec une anecdote, José Mourinho qui dit à la fin du match contre Feyenoord, ils peuvent gagner 100 fois le match contre nous, mais ils ne regagneront jamais la finale qu'ils ont perdue l'an dernier en Ligue Europa Conférence. Donc voilà, toujours très taquin au Mourinho. Mais je pense que la Roma va passer. Je pense que la Juventus aussi va le faire. Et moi, comme je te l'ai dit, moi, je pense que Séville va passer, le Bayer Leverkusen avec l'expérience Moussa Diaby, l'international français, qui devrait permettre aussi de se qualifier.
Allez, Ligue Europa Conférence, justement, le seul club français, Nice, balle Nice 2-2, avec superbe but pour Mofi, hein, c'est un début de cette année de foot. Bon, 2-2, match assez équitable, assez équilibré, tout est possible pour le match retour. Hein.
Ouais, tout est possible.
Peut-être même une séance de tir au but.
Et moi, je vois même un petit avantage niçois, ils sont à la maison quand même, à l'Allianz Arena. Après, balle, c'est aussi une belle équipe de football, une équipe expérimentée qui a de l'expérience dans les Coupes d'Europe. Mais je vois, j'ai envie de croire en Nice cette saison et en tout cas, je leur souhaite d'aller au bout pour l'indice UEFA déjà. C'est important pour l'indice UEFA. Et ensuite, pour tout ce que vivent les supporters niçois cette saison, un début de saison assez compliqué. Là, on voit avec...
Ils ont un petit coup de moins bien, là, quand
même. Ouais, même avec toutes les affaires qu'il y a autour, des choses qui se seraient passées dans le passé, etc., qui vient un peu pourrir l'ambiance du club. Donc, on leur souhaite de remporter cette coupe et d'aller au bout. Et même pour la France... Enfin, rajouter une Coupe d'Europe, ce qui n'a pas été fait depuis 1993.
Oui, parce que c'est pareil, d'ailleurs, qui va fêter Marseille, donc c'est 30 ans, le 29 mai.
C'est dire à quel point c'est problématique. Ouais. On fête encore ce qui s'est passé en 1993, là où les autres ont oublié déjà les Coupes d'Europe qu'ils ont gagnées.
Et justement, on parlait des problèmes de culture de foot français. Sur les 15 finales, on a perdu 13 quand même. Hein.
On a vu Marseille 2018 Atletico, Monaco 2004 passé, contre Porto. C'est très inquiétant. Même Lyon, c'était pas une finale, en demi-finale contre l'Ajax il y a quelques saisons qui était plus fort à cette époque-là, qui se fait éliminer. Je pense que comme tu dis, il y a vraiment un problème de culture.
Ouais. Alors les autres résultats, donc la Grantoise, West Ham 1-1, Lech Poznań écrasé à domicile par la Fiorentina 4-1, ça sera probablement l'adversaire, le futur adversaire, la Fiorentina pour Nice en cas de qualification. Mmh. Et puis Anderlecht, donc les Belges qui ont battu l'AZ Alkmaar 2-0. Voilà.
La Fiorentina va falloir faire attention, on a vu hein, même Jonathan
Encore
Ikone.
Une équipe italienne.
Un international français, Jonathan Ikone qui brille là-bas à la Fiorentina. Moi je pense que c'est l'équipe la plus solide cette saison dans cette Ligue Europa Conférence. Donc je pense en tout cas pour les Niçois, s'ils arrivent à passer ce tour-là, si derrière tu sors la Fiorentina, c'est ouvert.
Après,
il va falloir faire attention aussi. West Ham aussi, qui l'année dernière élimine Rennes. Il va falloir faire attention, mais j'ai envie d'y croire pour les Niçois. Mais en tout cas, l'adversaire pour moi le plus coriace, ça va être la FIO plus que West Ham.
Allez, on passe, avant de passer au championnat de France, à la Coupe de France, c'était quand même pendant cette quinzaine les deux demi-finales. Nantes qui a battu Lyon 1-0, avec là aussi un super but de Blas.
Magnifique but.
Hein, comme Mofi, hein, c'est le but de la saison. Et puis Toulouse qui a déjoué les pièges d'Annecy en s'imposant à Annecy 2-1. Donc finale inédite, Nantes-Toulouse le 29 avril.
C'est ça, Nantes-Toulouse, Nantes qui fait un back-to-back, c'est quand même assez incroyable de revenir comme ça et enchaîner encore une finale de Coupe de France pour les Nantais. En plus, ça n'arrive plus ces dernières saisons, à part avec le PSG qui assez logiquement se qualifiait tous les ans. Mais là, de voir le club nantais revenir en finale, c'est magnifique. Et Toulouse, moi je suis content, je suis très content, au-delà d'être content pour Toulouse.
Par le foot là.
Et je suis très content pour Philippe Montagnier qu'on a beaucoup critiqué en France, beaucoup critiqué. Il a dû partir à la Real Sociedad, il a dû partir en Angleterre. Se reformer pour prendre Toulouse en Ligue 2, remonter en Ligue 1, et je suis très content pour eux. Et à Toulouse, il y a des formidables joueurs de football. Branko Van Bommel, c'est juste le football à l'état pur, c'est tout ce qu'on aime voir sur un terrain de foot. Donc je suis très très content pour le TFC. Ça va être une très belle finale entre deux très bons clubs avec des supporters fervents des deux côtés.
On va saluer Valentin justement qui est supporter du FC Nantes, même s'il est journaliste avant tout. Bonsoir Valentin, ça va? Donc Nantes-Toulouse, finale de Coupe de France, on vient de parler de la semaine de Coupe d'Europe. Nantes-Toulouse, en Coupe de France. Finale un petit peu inattendue. Les deux équipes qui sont dans la deuxième moitié de championnat.
Ouais, c'est ça.
Dans le tableau en championnat. Mais enfin bon, c'est ça la Coupe de France.
C'est la magie de la Coupe de France. Ouais, je suis porté un Nantais, mais il faut reconnaître que Toulouse a mérité sa place en finale. Qui seront revanchards.
Et Nantes aussi, hein. Oui. Victoire logique contre Lyon.
Oui,
quand même,
oui.
Hein.
Mais ouais. C'est sûr qu'ils seront revanchards vis-à-vis de Nantes qui leur avait empêché une montée en Ligue 1 il y a un an ou deux. Enfin, il y a deux saisons. Donc, il y aura aussi ça qui sera dans la balance. Nantes qui a son. Oui, qui a back-to-back, donc qui peut réaliser quelque chose de grand, mais c'est quand même décevant que ça soit ça en Coupe de France et qu'en championnat ça ne suit pas.
C'est souvent le cas.
On a vu Comboiré qui a dit que Nantes était une équipe, qu'ils étaient une équipe de merde, donc c'est des propos quand même qu'un entraîneur. Là, c'est quand même un entraîneur qui en a ras-le-bol de jouer la deuxième partie de tableau.
C'est un sanguin, Antoine.
Oui, mais ça prouve quand même un truc du groupe que c'est bien de faire des exploits par-ci par-là, mais il faudrait. Plus se maintenir dans la saison, comme battre 3 par exemple, ce serait peut-être mieux. Mais pour Toulouse, moi je vois cette confrontation un petit peu plus serrée que la saison dernière, parce que Toulouse, comme il disait Abou, quand même Toulouse, il y a du football, ça donne envie, le match était vraiment magnifique à voir, donc... Donc pourquoi pas, on va voir ce qui se passe.
Après, pour Nantes, c'est compliqué aussi parce que tu as cette finale de Coupe de France en ligne de mire. Tu as des joueurs qui ont envie de faire ce back-to-back, de réaliser un exploit. T'as ceux qui ont peur de se blesser en amont de cette finale. Quand tu mets tout ça dans la tête, c'est sûr que ça devient compliqué en Ligue 1. Là, il y a la finale qui va arriver très vite. Va falloir gagner cette finale et évacuer ça, après se concentrer sur le championnat. Mais tu as une équipe comme Troyes qui avance plus, qui a pris 3 points là depuis la phase retour, qui avance plus du tout. Donc voilà. Tu as aussi Angers que tu vas jouer. Enfin, tu as des équipes prenables sur la fin et moi je pense que ça va se maintenir. Mais Antoine Comboiré, en tout cas, il a bien fait de mettre ce petit électrochoc et de faire comprendre à ses joueurs que la saison n'est pas finie. Parce que si jamais tu perds la finale de Coupe de France et en plus que tu descends, on passe d'une saison qui aurait pu être historique à une saison catastrophique. Hein.
Ouais, c'est ça, c'est sûr.
Allez, 31e journée du championnat. Alors, on va revenir quand même sur cette quinzaine. Hein. Il y a 15 jours, quand on avait fait le point foot, on se demandait si Paris Saint-Germain n'allait pas craquer. Puis bon, Paris a bien négocié, en tout cas, ces deux matchs importants. Ils sont allés gagner à Nice 2-0. Ils ont battu Lens 3-1. Dans le même temps, Lens s'était imposé la semaine dernière devant Strasbourg 2-1. Et puis Marseille, qui finalement donc, est toujours dauphin du Paris Saint-Germain après sa victoire hier à 3-1. On va rappeler que les Marseillais avaient fait un nul à Lorient 0-0 la semaine dernière. Sinon, ce week-end, eh bien, victoire de Lyon à Toulouse 2-1, de Rennes qui a écrasé Reims 3-0, de Lille qui a battu Montpellier 2-1. Match aussi important pour Brest qui s'est imposé devant Nice 1-0. Victoire aussi très importante pour Auxerre qui a battu Nantes 2-1. Et puis Strasbourg qui bat l'AC Ajaccio 3-1. Même score également pour Lorient. Pour Monaco qui a battu Lorient 3-1. Monaco qui avait été faire nul à Nantes la semaine dernière 2-2. Donc au classement, le PSG premier 72 points, deuxième Marseille 64, troisième Lens 61, quatrième Monaco 61, cinquième Lille 55, sixième Rennes 53 et en bas de tableau, donc 14e Auxerre 32, 15e Nantes-Brest 31, 17 Strasbourg 29, 18 3 et Ajaccio 21 et 20 Angers 14. C'était ce qu'on était en train de dire en bas de tableau. Angers, Ajaccio 3 semble condamné. Après, derrière, Strasbourg, Brest, Nantes, ça va jouer pour la quatrième place où l'on va descendre.
Ouais, ça va être compliqué. Après, moi je vois plus les Brestois être le quatrième club à descendre. Strasbourg, moi, je fais confiance à Antonetti pour bien finir.
Auxerre a l'air de vouloir... C'est une belle survie, Auxerre.
Auxerre, moi, je pense que ça va se maintenir. Ouais, et Nantes, encore une fois, je pense qu'une fois qu'ils ont évacué cette finale de Coupe de France, ils remettront... Parce que c'est une belle équipe, Nantes, quand même. On a vu de très, très belles choses cette saison. Je pense que dès qu'ils auront la tête à l'endroit pour les Nantais, ça ira. Je suis un peu inquiet pour Brest. Après, pour Ajaccio, pour Troyes et Angers.
Les carottes sont cuites.
Trois
Ajaccio, ils ont perdu trois matchs importants ces temps-ci.
Quand tu vois dans le jeu, ça avance pas, ils mettent pas un pied devant l'autre, c'est affligeant à regarder. Je pense que c'est fini. Autant Angers, là, ça remonte un peu là, sur les derniers matchs, mais ça se réveille un peu tardivement, donc ça va descendre. Mais moi je vois ces quatre là descendre. Après, ce qu'il s'agit du haut de tableau.
Bon, ça y est, Paris est champion.
Moi je pense que oui, en tout cas
il y a 9 points d'avance à 7 journées de la fin. faudrait perdre pratiquement plus d'un point par journée.
Non, je pense que ça
paraît difficile quand même.
Et surtout, ils ont négocié, ils ont bien négocié leurs deux matchs. Les deux matchs importants qui leur restaient, c'était Nice et Lens. Et on a vu Nice, ça a été très bien négocié. Lens, encore mieux négocié, surtout quand on connaît l'histoire Galtier. Il pouvait avoir un peu de morale, ça pouvait peser sur les joueurs, mais ça s'est très bien passé. Il y a ce carton rouge assez rapide pour Abdoul Samad du côté lensois qui va un peu plomber l'équipe. Après, le PSG va finir champion, mais dans le jeu, Lens même à 10 contre 11, c'est une équipe qui dominait quand même, qui est rentrée. Et c'est pour ça, moi, je pense même que les Lensois, moi, je les vois bien finir deuxième, parce que tu vois que dans le jeu, quand même, c'est une équipe solide, c'est une équipe qui en a envie. Ouais.
Marseille-Lens, c'est le match pour la deuxième place. Avec aussi, il ne faut pas les oublier,
Monégasques qui peuvent être là.
C'est un match à trois, hein. Marseille-Lens, Monaco, pour les places européennes. Ligue des Champions, tour préliminaire et Ligue Europa.
Avec une équipe quand même qui encore une fois, hein, je le répète, qui est beaucoup mieux dans le jeu, c'est Lens. Une équipe qui a l'air un peu plus dominatrice que Marseille et Monaco. Donc moi, je vois bien les Lensois finir deuxième. Après, Monaco-Marseille, attention aux Marseillais, tu as un déplacement à Lyon, tu as un déplacement à Lille. Lille qui est une très belle équipe encore, qui a gagné Lille, ce week-end contre Montpellier.
Qui est cinquième et qui elle se bat pour jouer la Ligue Europa.
Donc, face à Rennes. Hein. Les Marseillais, il leur reste des matchs cruciaux avec des équipes qui donneront tout. Donc ça va être très très compliqué. Et quand tu vois le niveau de jeu de Marseille sur cette fin de saison, tu as l'impression que les joueurs ils sont un peu fatigués, que même tactiquement, le coach ne s'y retrouve plus trop, il ne sait plus trop qui faire jouer, comment les faire jouer. Donc ça va être très très compliqué pour nos amis marseillais. Et Lens en tout cas, on avait vu ce petit creux
il y a un petit creux.
On pensait que
en décembre janvier
Marseillais les Lensois, on pensait que ça leur serait fatal et que ça leur ferait le même tour que l'année dernière où ils avaient fini par ne même plus jouer de Coupe d'Europe. On se rend compte que finalement non, il y en a dans la tête et c'est ce qui fait le coach là-bas, c'est formidable.
Valentin, pareil pour l'analyse, pour la tête du classement, le bas du classement.
Lens, ça fait extrêmement plaisir de revoir ce public. On a envie de voir ce public en Coupe d'Europe, que ce soit en Europa League, en Ligue des Champions. On sera en Ligue des Champions, on l'espère fortement. C'est une ville, c'est un groupe, c'est une équipe. Franchement, c'est une ambiance incroyable. Marseille, c'est vrai que ça commence un tout petit peu à s'essouffler. Comme le dit Abou, tu as l'impression que les joueurs arrivent sur la fin de saison. Il reste quand même, c'était une énorme saison avec une sorte de grosse pause au milieu de Coupe du Monde. Il y en a, ils ont joué, d'autres non. C'est un peu bizarre cette saison, donc fallait s'y attendre. Le PSG a très bien aborder les matchs qu'ils devaient gagner tout simplement, parce qu'avec l'affaire Galtier, avec les blessures à gauche à droite.
Et puis même avec les matchs ratés qu'ils avaient eu.
Oui, et puis le milieu de terrain qui ne s'y retrouvait pas ou quoi.
Il y avait un petit doute qui s'était quand même installé.
Oui,
hein.
Et puis bon, un coup Messi, on le critique, un coup on l'aime. Voilà, à un moment donné, il faut savoir. Et c'était un peu compliqué, mais le PSG a su remonter la pente, donc il va être champion sans problème. Voilà. Ça joue mieux, mais c'est toujours compliqué parce que face à Nantes, j'ai vu le match, ils ne devaient pas...
Franchement, ils
gagnent 2-0.
Ils
ne doivent à aucun moment se faire attraper 2-2, même si Ludovic Blas nous fait une rentrée extraordinaire et vraiment...
Quel joueur.
Une autre planète, c'est le football, mais t'es Monaco, tu dois un minimum 2-1, ok, mais 2-2, te faire remonter. En plus, ils ont de la chance qu'il y a la VAR, qu'il y a un but, le troisième but des Nantais qui est hors-jeu, autrement, là, ça fait 3-2 et... Franchement, Monaco nous a habitués à ça, de tout le temps mener et après se faire rattraper. Mais là, face à Nantes, tu peux pas, surtout une équipe qui est en bas du tableau, tu peux pas faire ça. Et puis, moi, Brest, j'espère qu'ils vont réussir à se maintenir. Mais c'est vrai que, comme le dit Abou, ça paraît. C'est bizarre, ils avaient très bien débuté la saison et ça s'est essoufflé de petit à petit.
Eux, c'est pareil,
et ils ont pas réussi, comme 3, à relancer la machine. Ouais. Et là, ça paraît d'être compliqué. Ouais.
Enfin, maintenant, 3, c'est fini aussi. Hein.
Mais je veux dire, 3, c'est comme tu disais, 3 qui a du mal à prendre des points et tout. On sent que le bas de tableau, enfin, les championnats, ça commence. On est sur la fin de saison, quoi. Mmh. Et comme on dit, ça a été une saison qui est historique dans le sens de son calendrier. Ça aussi, il faudra peut-être en parler avec les calendriers surchargés, mais ça serait une question à poser en fin de saison parce que.
Ils auront plus de récupération. Il y aura moins de matchs la saison prochaine, 34 journées.
Mais on compte rajouter des compétitions, quand on rajoute des conférences, ligues, des machins. On verra bien, ce sera une question à poser, forcément.
Allez, la Ligue 2, 31e journée. Alors, il y a eu un super match la semaine dernière, à Charletti, entre le Paris FC et Saint-Etienne. 4-2 pour Saint-Etienne qui est allé gagner à Charletti, mais un match très spectaculaire. Autre match intéressant et spectaculaire la semaine dernière, Bordeaux qui a battu Bastia 2-0, alors que donc le Havre a bien été accroché à domicile par Guingamp 0-0. Et cette semaine, victoire de Metz devant Bordeaux 3-0. Le Havre est allé gagner à Nîmes 1-0. Victoire importante de Pau à Sochaux 3-2, Bastia donc qui écrase Annecy 3-0, et puis une nouvelle fois donc le Paris FC battu à Caen 3-1. Ce soir il y a un Grenoble Saint-Étienne donc à 20h45. Donc le Havre est en tête avec 64 points devant Bordeaux deuxième 56, troisième Metz 55, quatrième Sochaux 52, cinquième Bastia 51. Donc là aussi il y a match pour la deuxième place donc de ce championnat de Ligue 2, hein, qualificatif pour la montée en Ligue 1. Et donc 16e en bas de tableau, Valenciennes 34 points, 17e Laval 31 points, 18e Dijon 30 points, 19e Nîmes 20 points et 29 points pardon, et 20e Niort 27 points. Donc le Havre, c'est en Bordeaux, Metz, Sochaux, Bastia, que des ex-Ligue 1 qui se battent pour accompagner le Havre en Ligue 1.
C'est ça, ouais, le Havre qui va très certainement monter. Ça fait plaisir de revoir ce club en Ligue 1. Après, pour Bordeaux, ouais, il y a cette défaite contre Metz 3-0, avec un excellent match de Georges Mikotadze, hein, le franco-géorgien qui franchement est en train de marcher sur la Ligue 2 cette saison. 17 buts, 7 passes décisives pour lui. Il fait une saison tout bonnement, formidable. Ils ont ce numéro 10, Lamine Camara, qui jouait son premier match sous les couleurs messines, qui vient de Génération Foot au Sénégal. Metz, qui on connaît, est un relais pour le Sénégal. Hein. Sadio Mané, notamment, était passé par là-bas. Et donc, moi, je vois Metz, franchement, sur la dernière ligne droite comme ça, et surtout Bordeaux, quand tu prends un 3-0 comme ça, une grosse gifle comme ça, je vois Metz finir devant les Bordelais.
Moi aussi, parce qu'ils étaient un petit peu moins bien partis que Bordeaux. Même que Sochaux. Hein. Et puis finalement, ils ont l'air de pouvoir finir plus fort. Ouais.
Et les Sochaliens, eux, ce qui m'inquiète, c'est que c'est une journée où finalement Bordeaux va perdre. Tu prends les trois points, mais tu vas perdre contre Pau.
Il perd quelques matchs importants.
Ça va être compliqué. Donc moi je vois, à titre personnel en tout cas, je vois le Havre et Metz monter en Ligue 1. Après encore une fois, hein, le football réserve tellement de surprises. Si ça se trouve, c'est Bastia qui finira deuxième.
C'est pour ça qu'on l'aime.
C'est comme en National. En National, on voyait Versailles. Et le Red Star monter. Finalement, ouais, on se rend compte c'est ce qui est formidable dans le football, c'est plein de surprises. Mais encore une fois, on assiste à un très beau championnat de Ligue 2. Oui. Qui, par conséquent, fait qu'on assiste à un très beau championnat de Ligue 1. Mais encore une fois, ça explique toujours pas pourquoi en Coupe d'Europe, on n'est pas là.
Eh oui. Alors, le Paris FC, bah, eux, fidèle à sa tradition, il est en milieu de tableau, hein, 10e à égalité avec Amiens, 40 points. Voilà, ça sera probablement son classement en cette fin de saison. Alors, justement, le National, 29e journée. Le Paris Atlético, la semaine dernière, a été battu par Dunkerque, équipe qui joue donc la montée. Hein, donc, Dunkerque vainqueur 2-0. Le Red Star battu aussi à domicile par Concarneau, 4-1. Et Saint-Brieuc qui a donc a fait match nul à domicile devant Versailles 1-1. Et puis vendredi cette semaine, donc Concarneau a écrasé le Paris Atlético 3-0. Dunkerque a battu Avranches 2-0. Versailles s'est imposé difficilement devant Villefranche-Beausoleil 1-0. Il y a deux matchs ce soir, donc Orléans-Martigues à 18h30 et Nancy Red Star à 19h30. Pour l'instant, donc en tête Concarneau-Dunkerque avec 52 points, 3e Martigues 49. On l'a vu, 4e, donc Versailles, légèrement décroché, 48 points. Et 5e, le Red Star, avec 39 points. Pardon. Et puis 15e, donc Saint-Brieuc, 30 points. 16e, Le Puy, 28 points. 17e, Paris Atlético, 24 points. Et 18e, Borgo, 22 points.
Ouais.
Deux défaites quand même pour le Paris Atlético qui en plus risque d'être forfait.
Pour reprendre les mots d'Eladj, deux fessés.
Ouais, ouais. Voilà. Et en plus, ils risquent d'être forfait pour leur match contre Nancy parce que le stade apparemment poserait encore des problèmes d'homologation. Ouais, donc, on ne sait pas où est-ce qu'on va jouer, donc on risque peut-être de perdre le match sur tapis vert face à Nancy vendredi prochain.
Bah, c'est compliqué pour le Paris 13 Atlético, mais après, encore une fois, hein, quand on est sur une gestion d'un club qui est aussi catastrophique, il faut s'attendre à ce que le résultat soit catastrophique. Et il y a des problèmes à tous les niveaux, au niveau du Paris 13 Atlético, parce qu'il y a même là, ils sont en U17 National, il y a le coach du U17 National qui a pété une gueulante ce week-end parce que le club a organisé une détection pour l'année prochaine, alors qu'ils sont même pas sûrs de se maintenir en U17 national. Tu vois, les mecs, ils sont même pas encore maintenus en U17, et le coach qui a pété un coup de gueule en disant « Je n'ai rien à voir avec cette détection-là, ne m'y associez pas, et que personne ne vienne me voir pour me demander comment elle se passe. Moi, je suis concentré sur la fin de saison avec mes jeunes joueurs, et je suis focus. » Mais c'est un club qui se gère un peu mal, qui, je pense, a vu les paillettes un peu trop tôt, qui se sont vus trop grands peut-être aussi un peu trop tôt. Donc, ça va être compliqué pour eux, et ça va redescendre. Et attention, Parce que quand tu descends comme ça, parce qu'ils ont investi quand même beaucoup cette année, hein, tous les joueurs qui sont arrivés, même si c'était des prêts, etc. Quand tu investis massivement comme ça, quand tu descends, il faut voir ce que ça va donner derrière. Et attention à pas redescendre encore plus bas que la Nationale 2.
Ouais, ouais, ouais. Et puis, voilà. Et puis, tiens, pour le retard, donc légèrement décroché, ils ont 45 points et pas 29, comme on l'a dit, par erreur. Versailles aussi, légèrement décroché.
Il était si bien parti, ouais, retard, ouais, ouais, quand même.
Retard et Versailles, légèrement décroché. Donc, apparemment, la bataille pour la montée, parce qu'il y a une seule montée, hein, se joue entre Concarneau.
C'est Dunkerque, deux montées en national.
Concarneau, Dunkerque, et puis donc. Concarneau, Dunkerque, et puis donc Martigues.
C'est deux montées en national cette saison. C'est les deux. C'est les deux premiers qui montent.
Oui.
Et Martigues,
oui, c'est la N2 qui monte.
Qui monte une seule équipe. Et Martigues qui mène actuellement 1-0 contre Orléans. Donc Martigues qui pour l'instant, en tout cas provisoirement, est premier du classement. Après, moi, je vois bien Martigues monter. Ça me ferait plaisir. Ouais. Un petit club du Sud, hein, Bouches-du-Rhône. Dans les Bouches-du-Rhône, un petit club Martigues monter. Et Red Star, j'ai envie d'y croire sur la fin de saison. Après, je ne sais pas si c'est par amour pour Abib Bey qui me fait perdre un peu mon objectivité, mais j'ai envie d'y croire pour le Red Star. Mais ce serait dommage, en tout cas, pour Versailles qui a investi de ne pas monter, pas et pour le Red Star qui s'est fait racheter de ne pas monter.
Ils n'ont pas de stade, donc ça va peut-être les arranger quelque part.
Je trouve toujours, mais c'est vrai que c'est dommage quoi, de Versailles qui avait tellement investi. Ça fait 2-3 saisons qu'on se dit qu'il y a quelque chose avec ce groupe. Même là, le Red Star, ils étaient si bien partis. Je m'en souviens en parlant en début de saison, de le Red Star premier, deuxième, premier, troisième. Et là, c'est une dégringolade. En fin de saison, pourquoi pas, sur les derniers matchs, relancer la machine et peut-être aider. Mais pourquoi pas. Et puis, on est là aussi pour la surprise du football. Donc, Martigues, ça ferait plaisir en Ligue 2.
Allez, on va finir avec le foot féminin. Qu'est-ce que vous pensez des deux matchs de l'équipe de France, Solaire, Hervé Renard? 5-2 pour l'équipe de France contre la Colombie. Match un peu plus probant contre le Canada, champion olympique, 2-1. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est des débuts plutôt encourageants. Maintenant, il faut que ça continue.
Les premières d'Hervé Renard, très très bien réussies. Déjà, il reprend Wendy Renard, il en met en tant que capitaine. Il y a déjà un cadre, une équipe un peu plus. C'est plus clair dans l'effectif. On sent les joueuses libérées d'un poids, donc ça leur permet de jouer libérées. Face à la Colombie, on l'a bien vu, c'était très très beau à voir. C'était le premier match. Après, ça reste la Colombie. Par contre, comme tu le dis, le Canada qui sont championnes olympiques, c'était plus important et elles ont su faire le job. Et Hervé Renard, en fait, on n'a pas trop de surprises dans le sens où c'est un coach qui sait entraîner, ça c'est sûr. On l'a encore vu avec au Mondial face à l'Argentine. Il avait un système de jeu qui était en place, qui était clair, des joueurs qui savaient quoi faire. Il sait pousser les gueulantes quand il faut pousser les gueulantes. C'est carré, c'est clair. Et comme j'ai dit, le départ de Corinne Diacre, qui ça fait déjà 2-3 saisons, 2-3 ans, qui est critiqué au sein du vestiaire. Les positions prises par les joueurs comme Wendy Renard et autres, ça. Et puis le départ du président de la FFF, à un moment donné, je pense que les joueuses avaient besoin de ça, d'un nouveau souffle, et Hervé Renard leur a apporté. Donc pour le moment, c'est encourageant. Après, ça reste l'équipe féminine, et puis ça reste le football français. Donc à tout moment, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais déjà qu'il n'y a même pas de diffuseur là, pour la Coupe du Monde. Donc c'est catastrophique.
On verra. En tout cas, l'optimisme, il est revenu. Après, c'est qu'il y a une Coupe du Monde en fin de...
Il faut prolonger l'enchantement.
Un coach qui passe de 400 000 euros mensuels à 400 000 euros annuels, il ne peut que réussir. Le mec, il est là, c'est vraiment par amour il l'a dit lui-même.
C'est tellement rare dans le monde du foot.
Il est là pour amour de sa nation, il veut réussir, donc pour conclure sur ça, moi je pense qu'il va réussir avec cette nation-là, même si encore une fois, moi je suis contre le fait qu'on ait enlevé Corinne Diacre de cette manière-là. Je pense que dans le football masculin, ça aurait fait polémique tout autant. Je pense pas qu'on obtienne les choses, c'est comme avec un enfant, on n'obtient pas les choses en faisant des caprices et en boudant. Oui, je reviendrai plus jamais en équipe de France tant que ce sera elle la coach. Je pense pas que ça marche comme ça, mais maintenant elles ont eu gain de cause et on leur souhaite de
remporter cette Coupe du Monde. Après, on sait pas tout, mais c'est vrai que ça fait un peu de manière... je boude et du coup je suis au-dessus de la fédération et aucune joueuse et aucun joueur ne devrait être au-dessus d'un club et d'une fédération. Donc c'est vrai que c'était un peu bizarre ces prises de position. Après, est-ce que elle ressentait le besoin de faire ça? Il y a plein de choses qui devront être mises en place. D'ailleurs, Corinne Diacre a demandé une indemnisation de 6 millions d'euros, je crois, à la FFF. On verra bien. Peut-être que ça aura un effet papillon et qu'on révélera des trucs dans l'affaire.
Corinne Diacre, qui avec beaucoup de culot quand même, demande 6 millions d'indemnisation et à côté dit faudrait également augmenter le salaire des joueurs et le mettre au même niveau que celui des hommes. Quand elle était en poste, ça lui posait aucun problème.
Ouais, c'est
moi, c'est pour vous dire, hein, Corinne Diacre, je la supporte vraiment pas, Corinne Diacre, mais vraiment la manière dont elle est partie, moi, j'adhère pas. Mais la dame, elle était là, elle touchait ses pépettes, ça lui posait pas de problème que les joueuses soient moins bien payées que les hommes. Maintenant qu'elle est partie, oui, donnez-moi mes 6 millions et les joueuses aussi, il faudra penser à leur salaire. Mais comme il le disait, Hervé Renard, c'est vrai que sur le football féminin, la France est en retard sur plein de choses, au niveau des salaires, des installations, etc. Donc il y a du travail à faire, mais je pense qu'avoir un entraîneur comme lui, ça va faire énormément de bien à cette sélection.
Bah, surtout quand tu regardes le Canada, les États-Unis, qui les joueuses américaines ont dû se mettre en grève et faire un procès à la fédération pour avoir les mêmes salaires que les hommes, alors qu'elle rapporte 10 fois plus que les hommes à la fédération. Et franchement, ils ont réussi à se... Ça, c'est en 2019. Le Canada, ils ont investi dès 2018 et nous, on est en retard. Mais on a l'impression qu'on a 10 ans de retard. Donc oui. c'est très alarmant.
Comme dans beaucoup de domaines. Allez, foot féminin, c'est la dernière journée, donc la 19e journée du championnat. C'est le dernier point foot de cette émission. Donc Lyon qui bat le Paris FC 2-0, le PSG qui est allé gagner à Guingamp 1-0, et puis Fleury-Mérogis qui va gagner à Reims 3-1. Donc premier Lyon 52, deuxième Paris PSG 51, troisième Fleury et le Paris FC 35. Bon, bah voilà, c'est toujours fidèle.
Le match c'est ça, j'espère PSG, que Lyon. Le Paris FC va quand même finir devant parce que fait une grosse saison. Donc derrière le PSG qui a 10 fois plus les moyens que le Paris FC. Mais ouais, la section féminine du Paris FC fait plaisir à avoir joué. Franchement, ils ont eu un bon recrutement. Et là, moi, j'espère les voir terminer 3e. Ce serait bien pour elles.
Très bien. Voilà pour ce point foot. Merci, messieurs. Bon, merci les championnats étrangers, bah, ça continue hein, avec Arsenal en Angleterre et Manchester City. En plein duel, le Bayern de Munich donc en Allemagne, Naples en Italie
avec,
et puis le Barça qui domine largement en Espagne. Voilà.
C'est ça.
Allez, on écoute Julio Iglesias, Je n'ai pas changé. On aura le coup de gueule de Stéphane Dezenco et ensuite,
on va parler lutte.
Nicolas, on va parler lutte. Voilà. Allez, on y va.
Je n'ai pas changé, je suis toujours ce jeune homme étranger qui t'a chanté des romances, qui t'a vanté des dimanches, qui t'a faisait voyager. Je n'ai pas changé, je suis toujours ce garçon un peu fou qui te parlait d'Amérique, mais n'était pas assez riche pour t'amener à Corfou. Et toi non plus, tu n'as pas changé, toujours les mêmes parfums légers, toujours les mêmes petits sourires qui en dit long sans vraiment le dire. Non, toi non plus, tu n'as pas changé. J'avais envie de te protéger, de te garder, de t'appartenir. J'avais envie de te revenir. Je n'ai pas changé, je suis toujours l'apprenti baladeur qui t'écrivait des poèmes qui commençaient par je t'aimais, finissaient par t'aimer. Je n'ai pas changé, je prends toujours le chemin qui me plaît. Un seul chemin sur la terre a réussi à me plaire, celui qu'ensemble on suit. Et toi non plus, tu n'as pas changé, toujours les mêmes parfums légers, toujours les mêmes petits sourires qui en dit long sans vraiment le dire. Non, toi non plus, tu n'as pas changé. J'avais envie de te protéger, de te garder, de t'appartenir. J'avais envie de te revenir. n'es toi non plus qui n'a pas changé. Toujours les mêmes parapets légers, toujours les mêmes petits sourires qui en dit long sans vraiment les dire. Non, toi non plus qui n'a pas changé.
Voilà, bah écoutez, comme chaque semaine, pour conclure cette abondante page foot de la quinzaine, on retrouve le coup de cœur, coup de gueule de notre ami du quotidien du sport.fr, Stéphane Desenclos. Stéphane, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à tous.
Voilà. Donc, le coup de cœur, coup de gueule de, oui, cette quinzaine. Bon, Paris est pratiquement champion de France, ça c'est,
ouais,
fait.
Ouais, tout à fait, ouais, ça, j'en parle dans le texte. Effectivement, il faudrait que Paris perde 3 matchs, voire 4, pour ne pas être champion. Donc, c'est fait. Non, mais le gros sujet, quand même, sur lequel je me suis beaucoup attardé, alors c'est un gros coup de gueule, quand même, c'est sur l'affaire Christophe Galtier. Je suppose que vous en avez très probablement parlé.
Oui, c'est surtout le jeu qui nous intéressait, Stéphane. Nous, hein, ben voilà, on a fait le point cette quinzaine, hein, mais enfin, oui.
Voilà, mais pour moi, c'est quand même le fait de cette quinzaine. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a quand même beaucoup de bruit sur pas grand-chose. Avec une question, bien sûr, Christophe Galtier doit-il être lynché sur la place publique ? C'est la question que tout le monde du foot se pose, à l'image des supporters du PSG, hein, qui avaient été très clairs sur leur position. Si les faits scandaleux reprochés à l'entraîneur parisien sont avérés, il doit dégager rapidement. En fait, ce postulat, on est beaucoup à le partager. Alors, si j'en parle beaucoup ce soir, c'est pas du tout parce que, pour faire le buzz, parce que c'est des choses intéressantes, je suis bien tout à fait d'accord, le jeu passe d'abord. Maintenant, je trouve que c'est quand même assez grave ce qui se passe, ce qu'on entend sur les médias et tout à propos de cette affaire, parce que c'est justement tout le problème. Et si on était devant une cour de justice aujourd'hui, l'avocat de Christophe Galtier, il se frotterait les mains et il n'aurait pas de mal à remporter le procès, car finalement, à ce stade, on entend en attendant bien sûr les résultats de la perquisition qui a été faite dans les locaux de Nice, le seul et unique élément d'accusation reste un mail échangé entre deux dirigeants du UGC Nice à la fin de la saison 2021-2022. Ah. Alors, c'est intéressant quand même de regarder un peu le cursus, le chemin, ce mail, un long mail dans lequel le directeur du football du GYM explique au directeur des sports d'Ineos, donc son patron, qu'il a vécu une saison très compliquée avec celui qui dirigeait alors l'équipe niçoise, donc Christophe Galtier. Un mail qui parle d'une réunion du 9 août 2021, c'est-à-dire au tout début de la saison en question, mais adressé au patron des sports d'Ineos plus de 8 mois après les faits. Déjà, il y a quelque chose qui est un peu qui interpelle, hein, quand c'est là. Entre-temps, qu'est-ce que Julien Fournier a fait donc de ces informations ? Comment a-t-il géré cette discussion lunaire avec son entraîneur, hein ? Je ne sais pas si vous avez eu des trucs. Et surtout, comment un club de football professionnel de Ligue 1 a-t-il pu cacher les propos racistes, discriminatoires, s'ils sont avérés, bien sûr, hein, et bien sûr, condamnables par la justice de son entraîneur. Face à la violence des propos, c'est quand même très, très violent. Hein, pour il parle quand même de salles noires, musulmans, trop de tous les joueurs sont dans les mosquées, quoi, c'est terrible. Face à la violence des propos évoqués dans le mail, que Fournier reconnaît donc avoir écrit, mais qu'il nie avoir communiqué à la presse, mais aussi l'attitude dénoncée de Galtier par rapport au Ramadan, dans le même mail, il est quand même difficile, je ne sais pas, quand on est normalement constitué, de penser que l'omerta a pu régner sur l'ensemble du club pendant près d'un an. L'affaire devient tout simplement incroyable, complètement folle, quand on apprend ce dimanche par le JDD que le président River aurait été présent à cette fameuse réunion du 9 août. Mmh. Alors, je résume. Voilà donc un mail du directeur du foot de l'OGC Nice au directeur des sports du propriétaire du club qui prend sur lui, donc personnellement, d'évoquer ces soi-disant propos tenus en présence de son président. Donc le président est là, mais c'est le directeur du foot, donc un subalterne, entre guillemets, qui avertit le grand patron. Comment penser que les dirigeants niçois ont pu penser une seule seconde qu'un entraîneur avec une telle image de son équipe, hein, je répète, trop noir, trop musulman, comme il est écrit dans le mail, puisse obtenir des résultats, alors que les relations entre Fournier et Galtier étaient extrêmement tendues lors de la deuxième moitié de saison, à la suite notamment des reproches faits par Galtier sur le recrutement du mois de janvier. Julien Fournier aurait-il volontairement chargé son entraîneur dans ce mail ? Ou au contraire, aurait-il été poussé à écrire ce mail parce que justement les rapports avec l'entraîneur s'étaient détériorés à tel point qu'il était impossible de les voir, de voir les deux hommes encore travailler ensemble. Peut-être qu'à ce moment-là, Fournier voulait faire accélérer le départ de Galtier. Difficile de se positionner dans un débat qui mêle indiscutablement les sentiments des uns et des autres à des faits. Alors, sont-ils avérés ces faits? Sont-ils ressentis? Sont-ils extrapolés? Une chose est certaine, on n'en sait pas suffisamment pour organiser un lynchage comme n'ont pas manqué de le faire certains médias. Je pense que ça n'a échappé à personne. L'absence de réaction d'Ineos à l'époque, comme du reste aujourd'hui, peut laisser quand même penser que toute cette affaire a été montée en épingle. Peut laisser penser, hein. Je ne dis pas que ça a été fait. Mais en attendant les résultats de l'enquête, je me contente moi personnellement de penser que tout cela n'est pas cohérent et aucunement compatible avec la gestion d'un club de foot de haut niveau. On peut aussi imaginer que le départ de Fournier, malgré celui de Galtier, donc pour le PSG, officiellement pour, je cite, « divergence stratégique », pourrait aussi être lié à cet épisode. Car ne pas le gérer, on est d'accord quand même, je sais pas, ne pas l'avoir révélé, aurait été quand même une faute grave que le propriétaire du club ne pouvait forcément pas laisser passer. La défaite en finale de la Coupe de France, par exemple, pouvant d'ailleurs être une des conséquences directes de cette ambiance très, très malsaine qui est dénoncée. Ben, il est incontestable dans tout ça, hein, que le fait, là on va revenir un petit peu au sport, et encore que le fait qu'il s'agisse du Paris Saint-Germain, ça pèse lourd dans le traitement médiatique des médias de cette affaire très violente, mais pour l'instant sans aucun fondement. Alors la seule chose qui peut me faire m'intéresser à cette affaire, ce serait des témoignages de joueurs. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de personnalités du monde du foot, notamment en provenance de Saint-Étienne, club que Galtier a entraîné pendant 8 ans sur ses 23 années passées sur un banc, et ben, sont plutôt en sa faveur. Alors, seules les paroles de joueurs, témoins d'actes discriminatoires ou de comportements racistes peuvent réellement accuser Galtier, viendront-ils? Ça, c'est la grande question. Voilà, c'est vrai que c'est hors foot, mais je tenais à faire ces précisions par rapport à cette affaire, parce que c'est quand même un peu du n'importe quoi. En attendant, le PSG, on le disait tout à l'heure, hein, peut déjà sortir les cotillons pour fêter son 11e titre, un titre historique, hein, aucun club français n'a réussi à faire ça. Quasiment acquis avec la victoire sur Lens samedi, les Marseillais sont à 8 points, avec une différence de but très largement défavorable. Les Lensois sont à 9 points. Alors concrètement, ça veut dire donc, on le disait tout à l'heure, Paris doit perdre 3 fois lors de ses derniers matchs pour que l'OM soit champion, en tenant compte du fait que l'OM gagne tous ses matchs, ou même 4 fois pour que Lens soit champion, si c'est Lens qui gagne tous ses matchs, puisqu'on sait qu'il y aura notamment un Lens-OM. Maintenant, ce qui est quand même hyper excitant, c'est la lutte pour la 3e place. Pour le podium, entre l'OM, Lens et Monaco, il y a 2 places pour 3 et il y a une place pour les 3 sur la 2e place qui va nous tenir en haleine, tout comme la bataille pour la Ligue Europa aussi entre Lille, Rennes et pourquoi pas Lyon va aussi nous tenir en haleine. Et bien sûr, cette terrifiante lutte pour le maintien avec plus, alors maintenant ça a un petit peu évolué, il n'y a plus qu'une seule place à éviter, c'est la 17e, parce que pour Angers, Ajaccio et 3, c'est mort, on a déjà 3 des 4 relégués. Alors ils sont 4 pour éviter de terminer 17e, Auxerre, le mieux loti, Nantes et Brest et Strasbourg. Et la seule équipe des 4 qui n'est pas dans une phase ascendante en Ligue 1, c'est le finaliste de la Coupe de France, Nantes. Alors attention, attention à Nantes, peut-être qu'il va leur falloir choisir entre gagner la Coupe ou sauver leur place. Un mot pour terminer sur les Coupes d'Europe, avec ce paradoxe, vous en avez certainement aussi parlé, alors que l'Italie vient de rater ses 2 dernières Coupes du Monde, on pourrait avoir 50% des équipes qualifiées pour les demi-finales dans les 3 compétitions européennes en provenance de la Serie A. C'est quand même un assez incroyable, 6 sur 12. Une pensée particulière pour l'OGC Nice, dernier représentant français sur la scène européenne, qui joue jeudi sa place dans le dernier carré de la Ligue Europa Conférence face à Bâle. Ce serait bien sûr une demi-finale historique. Après le 2-2 de l'aller, les Niçois, ils peuvent le faire. Et moi, je pense même, je me mouille un petit peu aussi ici, qu'ils sont tout à fait même capables de remporter la compétition.
C'était exactement ce que disait notre ami Abou. Merci Stéphane, bonne semaine et puis rendez-vous donc la semaine prochaine pour compléter donc la page foot comme chaque semaine. Et puis on peut retrouver ce coup de cœur, coup de gueule tout de suite sur votre site internet. Hein.
Ouais, tout à fait, voilà.
Merci Stéphane.
Merci beaucoup, au revoir, bonne soirée à tous.
Bye bye. Voilà, Allez, on va passer à la lutte. Vous avez vu, hein,
c'est... ça carbure.
Ouais, ça carbure le foot. Hein. Alors, comment on va le Paris Lutte?
Bah écoutez, le Paris Lutte Olympique, il va très bien. Ouais. C'est un club aujourd'hui qui est le plus gros club parisien avec 350 licenciés. Donc ouais.
Vous
un
êtes
club...
le club phare, hein, faut le dire, faut pas avoir peur des mots. Vous êtes le club le plus important pour
numériquement
le sport dans la
sur, sur voilà. Paris. Ça, ouais, c'est ouais. vrai, effectivement. Voilà, donc nous sommes un club fédéral. Nous sommes affiliés donc à France Lutte, le nouveau nom de la Fédération française de lutte. On est club formateur en fait donc de France Lutte et on accueille donc effectivement.
Depuis combien de temps le club existe?
Alors le club, le Olympique en fait n'est pas gratuit. Nous avons l'Olympisme fait partie de notre ADN puisqu'en fait il a été créé en 2001 par un Olympien qui s'appelle Georges Ballery, un grand monsieur de la lutte qui a pratiquement tout fait en lutte. Il a été vice-président de la Fédération française de lutte, il a été directeur technique national des équipes féminines puis masculines. Voilà, donc il a créé ce club en 2001 et puis voilà, il s'est développé au fil des années avec, disons, une forte accélération depuis en 2015-2016.
Oui. Autant d'hommes que de filles.
Ah, hélas,
parce que je sais qu'il y a... c'est un sport qui est très pratiqué aussi, la lutte chez les femmes.
Alors, on aimerait bien avoir effectivement beaucoup plus de féminines. Au Paris Lutte Olympique, on est attaché à la parité. On est à parité dans nos instances dirigeantes et cela depuis de longues années. Malheureusement, la lutte en général et en particulier la lutte féminine souffre d'un déficit de représentation. Je pense qu'on a l'image du lutteur comme un grand gaillard baraqué. Alors que la lutte est un sport fait absolument pour tout le monde peut lutter. Et chez les femmes, peut-être de femmes très musclées, très surportées, qui ont peut-être un peu perdu de leur féminité, alors que c'est tout à fait faux.
Oui, alors justement, on va bien présenter cette activité, mais auparavant, on va dire que vous êtes un sport ancestral. Il y a une histoire olympique dans votre sport. Hein.
Alors absolument, donc on est un sport originel. Les premiers témoignages de lutte, vous les retrouvez en Mésopotamie, il y a 7000 ans avant Jésus-Christ. Donc voilà, on existe depuis 9000 ans. C'est un sport qui traverse toutes les époques, qui est présente dans toutes les civilisations, sur tous les continents. Alors pourquoi cette durée, pourquoi cette persistance? Ça dit certainement quelque chose dans la psyché humaine sur ce que représente en fait la confrontation de personne à personne à main nue. C'est un sport qui est non instrumenté. On lutte tel que l'on est, avec ses mains, avec son cœur. Voilà, donc c'est un sport qui a traversé les époques. C'est un sport qui, dans beaucoup de civilisations, est un sport d'initiation également, un sport de passage à l'âge adulte.
Et très pratiqué en Orient.
Alors, il est très pratiqué, effectivement. On dit que la mère des luttes, c'est la lutte mongole, qui est venue en Occident le long de la lutte de la route de la soie. Donc, effectivement, vous le retrouvez en Iran, vous le retrouvez en Inde. Ça vous surprendrait peut-être de savoir également que c'est le sport qui est le plus pratiqué aux États-Unis, avant le basket, avant le baseball. Absolument.
Ils ont des très bons athlètes aux États-Unis en lutte, vraiment.
Exactement. Tout le monde pratique la lutte au collège. Ensuite, au niveau universitaire, elle continue à être très pratiquée. Une compétition de lutte universitaire, ça vous remplit un palais des sports au même titre qu'un match de basket, voire plus qu'un match de basket. Voilà.
Et puis, bon, il y a des points communs. Hein. On parlait au début de cette émission qu'on avait reçu le président du MMA de Paris 13, il y a 15 jours. Il y a beaucoup de gens de la lutte qui viennent au MMA. Et puis, vous connaissez bien aussi, vous avez des synergies avec le sumo qu'on avait reçu aussi la saison dernière.
Alors, la lutte, en fait, c'est une grande famille. Vous avez donc ce que l'on appelle la lutte olympique, qui est la lutte qui est présente donc au JO, qu'on voit une fois tous les 4 ans. Donc, deux styles masculins, la lutte gréco-romaine, la lutte libre, un style féminin, la lutte féminine. La différence entre ces styles,
alors, c'est quoi la différence, la libre et la gréco-romaine pour le grand public?
Alors, c'est la surface d'attaque. En lutte libre et en lutte féminine, on attaque sur tout le corps. Donc, il y a des attaques aux jambes.
D'accord.
En lutte gréco-romaine, on ne touche pas les jambes. La lutte se développe au-dessus de la taille, de la ceinture.
Et ça, on se spécialise tout de suite?
Pas du tout.
Ah non,
Non.
On peut faire toutes sortes de luttes, quoi.
Il est conseillé au départ de ne pas se spécialiser. Chaque style a quelque chose à offrir. Et peu à peu, chacun trouve sa voie, en fait, vers un style ou vers un autre.
Oui, mais après, quand on choisit un style, qu'on a 15 ou 20 ans de pratique, c'est fini. On peut pas en changer?
Si, bien sûr. La base des deux styles, de toute manière, c'est un sport de préhension, même titre que le judo, etc. Donc, vos instruments de travail, ce sont les mains. La base de ces sports, en fait, donc, c'est la saisie. Et qu'on se saisit, service, disons, sur une garde haute, comme en ligne gréco-romaine, où on n'a pas protégé ses jambes, ou sur une garde basse, on se saisit toujours. Après, effectivement, chaque style a ses spécificités. La lutte gréco-romaine, c'est plus une lutte de puissance. Ça envoie toujours sur le haut du corps. La lutte libre, c'est une lutte de vivacité. Les lutteurs de libre sont un peu des chats qui peuvent éventuellement retomber sur leurs pattes après des situations assez improbables. Voilà.
Donc, et pareil pour les filles. On a voulu l'adapter à la féminité, à la grâce féminine. Quoi.
Alors, mots sur peut-être l'histoire de la lutte féminine. En fait, on n'y est pas venu tout de suite. Contrairement à la lutte masculine, c'est un sport qui s'est développé dans les années 70. Sports, hein, voilà. Donc avec plusieurs foyers, la Scandinavie, la France qui a été pionnière. C'est un sport qui est rentré donc, dans l'histoire olympique en 84 à l'occasion des JO d'Athènes. Voilà. Et bien en fait, comme tous les sports...
Je crois que le judo féminin il est rentré en 88. Donc vous voyez, c'est... Hein.
Voilà. Et donc, comme dans tous les sports, eh bien, il y a une montée en performance donc, des filles aujourd'hui. Et une compétition de lutte féminine n'a rien à envier à une compétition de lutte féminine du point de vue de l'engagement, du point de vue de la performance.
Alors, pour votre club, le siège, c'est où ? C'est le 16e, hein, d'après ce que j'ai lu ?
Alors, le siège, qui est un siège social, c'est le 16e. Mais en fait, nous sommes
dans le 4e et vous pratiquez dans le 11e.
Nous sommes un club qui est bilocalisé.
Vous êtes parisien.
Voilà, nous sommes parisiens.
Ils sont partout. Ouais.
On a un site dans le 16e, entre la porte d'Auteuil et la porte de Passy, au gymnase Suchet.
C'est pas loin du Parc des Princes, si on parlait foot, vous voyez ?
Exactement. Voilà. Ouais. 16e arrondissement bien noté en équipement sportif. Et dans le 11e, donc un site plus central, en fait, donc proche de la Bastille, le centre sportif Breguet, avec où on bénéficie en fait d'une infrastructure qui est unique à Paris. Il y a une seule salle de lutte équipée en fixe à Paris.
Ah ouais,
c'est le centre sportif Breguet, et plus exactement la salle de lutte qui s'appelle la salle de lutte Linovertura. On pratique sur ces deux sites, dans le 16e et dans le 11e, avec une infrastructure dédiée dans le 11e.
Alors, vous parlez d'Innoventura, bon, on ne va pas présenter la star mondiale qu'il a été dans le cinéma, mais il a pratiqué la lutte, hein, avant même le catch et avant même le cinéma. Son premier sport, ça a été la lutte. Hein.
Absolument, absolument. Grand monsieur de la lutte, homme de valeur également, je pense qu'il est un beau symbole également des valeurs humaines véhiculées par le sport.
Votre sport sûrement.
Et il a écrit effectivement par rapport au sport. Il a écrit de belles choses. En gros, lorsqu'on a lutté une fois, vous pouvez tout faire dans la vie. Ce qui est normal, c'est un sport d'autonomie. Hein. Quand vous luttez, quand vous êtes au centre d'un sac, vous êtes tout seul avec vous-même.
Alors, dans votre club, vous avez plusieurs nationalités.
Absolument.
Donc, ça, c'est quand même incroyable.
Nous avons une vingtaine de nationalités sur le tapis.
Ça ne paraît pas. Hein.
Il y a plusieurs raisons pour ça. C'est naturel. La métropole est une métropole internationale.
Mais
également,
enfin, quand même.
Effectivement, le sport est un sport international.
Parlait parfois un peu de racisme tout à l'heure dans le point foot. Il n'y en a pas dans la lutte. Hein.
Alors, il n'y en a pas, à tel point d'ailleurs que la diversité est une des valeurs de notre club. Voilà, donc on est très attaché à cela. C'est quelque chose qui se ressent immédiatement lorsque vous venez à Paris Lutte Olympique. Vous avez une richesse en fait humaine et culturelle qui se sent tout de suite en fait sur le tapis. Donc voilà, je pense que c'est un environnement qui est assez grisant. Voilà, donc les nationalités, sur les cinq continents. Sur les cinq continents.
Des Australiens, des Néo-Zélandais, des Asiatiques, des Africains, Américains.
Des Américains.
Sud, Nord, c'est fabuleux.
Voilà, Russes, Afghans, Iraniens, Indiens, voilà, toutes les nationalités, Japonais. Le Japon est une grande nation de lutte, en particulier de lutte féminine. Les lutteuses japonaises sont parmi les meilleures lutteuses au monde. Voilà, donc un environnement qui est très international, un environnement jeune également.
Oui. Alors justement, j'allais vous demander votre tranche d'âge sur vos licenciés.
Alors, on va dire la borne supérieure, la borne inférieure pic.
Oui.
On peut commencer très jeune.
Oui.
Notre plus jeune doit avoir 4 ans.
D'accord.
Et donc on commence par des jeux d'opposition, bien sûr, où on découvre son corps, le corps de l'autre, et les deux dans l'espace. C'est un sport où on dure. Nos licenciés les plus âgés doivent approcher la soixantaine. Donc, pourquoi c'est un sport sécuritaire ? C'est un sport, en fait, qui se veut sécuritaire.
Il y a très peu de blessures, il faut le dire, aux parents. Il faut rassurer les parents.
On parlait de foot tout à l'heure, longuement. On se blesse, statistique à l'appui, 100 fois moins en lutte qu'en foot.
Mmh. Oui.
Et effectivement, c'est un sport qui est conçu pour être non traumatisant. Donc, contrairement à d'autres sports de préhension où on cherche la soumission par des clés, par des étranglements, en lutte, rien du tout ça. Aucune torsion articulaire, aucun étranglement. Donc, c'est un sport, effectivement, ce qui se veut sécuritaire dans son ADN. Lorsqu'on vous ouvrez un corpus de règles de lutte, la première chose qui apparaît, ce n'est pas la finalité, c'est la règle d'or, qui est de ne pas blesser son partenaire, qui est un partenaire avant d'être un adversaire, et de ne pas se blesser soi-même. Voilà, donc un sport à spectre large. Au club, notre pic de démographie est sur la tranche 15-35 ans, donc un sport de jeunes et de jeunes adultes. Voilà, donc
c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui, parce que vous l'avez dit, bon, c'est un sport confidentiel dont les médias ne parlent pas beaucoup, sauf nous, hein. Vous l'avez dit, c'est un sport quand même qui attire les jeunes, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'icône, il faut le dire. Hein. Votre sport, il a surtout beaucoup grossi quand il y a eu les frères Guénaud.
Oui, je ne suis pas complètement d'accord parce que.
Il n'y a pas de véritable champion
auquel on s'identifie. Si on part en France, si tu veux, mais c'est vrai que comme tu disais, tu parlais des États-Unis, de la MMA, que ça inclut tout le monde, les États-Unis. On a quand même, si on parle de MMA, un sport qui est en pleine expansion, on a John Jones qui est très très fort à la lutte, qui était en université justement, qui a eu sa bourse de lutteur, qui était un des meilleurs lutteurs en université et qui était promu à une carrière de lutteur olympique. On a même son ennemi toujours, Cormier, qui lui est champion olympique de lutte et qui après a fait de la MMA. Donc non, les jeunes d'aujourd'hui, je pense que juste en voyant un peu de la MMA, ils voient John Jones, ah, il est fort à la lutte, ce qui a manqué à Sheringan, ah la lutte c'est quoi, machin. Moi je sais qu'il y en a de plus en plus qui me disent ah ouais non mais il est pas fort parce qu'il sait pas faire de lutte, et après les gens s'intéressent à la lutte et tout. Je pense que il y a quand même il y a quand même des champions olympiques, notamment aux États-Unis,
en France
oui, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué ces derniers temps, mais je pense que ça
emmener des
alors on n'a pas encore de champions olympiques,
mais tu verras en 2024, je pense qu'il y aura quand même une expansion, et je le souhaite parce que franchement c'est quand même un sport qui est une autre façon de se battre, comme moins de torsions, moins de blessures, et qui est quand même oui, c'est une autre façon, quoi. C'est
non,
plus intéressant.
Non, mais après chaque Olympiade, on sait que les jeunes disent à leurs parents, tiens, je veux faire comme le champion ou la championne que j'ai vue à la télé, ça joue, ça.
Il y a les Jeux Olympiques, il y a le mouvement sportif olympique, effectivement, qui éclaire, mais qui éclaire très faiblement et très marginalement.
Oui.
Et comme vous le soulignez, en fait, la chance de la lutte actuellement, c'est le MMA.
C'est
puisque effectivement c'est un des sports piliers donc du MMA.
Ça se complète de fou. Il faut maintenant on le voit. C'était pas bon en lutte, c'était pas bon en jiu-jitsu, c'était pas bon. Tu vois, un très très mauvais lutteur, un très mauvais combattant.
Lui,
donc,
Loïc qui nous le disait hein, il y a 15 jours, hein, qu'il avait beaucoup de gens qui venaient de la lutte.
Oui, c'est ça.
Voilà, et donc effectivement, c'est un sport, une des disciplines socle qui permet de performer en MMA et de performer beaucoup. La spécificité de la lutte, si vous voulez, dans le combat debout, c'est d'arriver très fort au sol.
Ouais.
Donc, effectivement, quand vous amenez au sol, c'est facile de terminer, c'est plus naturel, on est en position de force pour terminer au point, au sol.
Oui, mais Nicolas, on en parlait, il y a des championnats d'Europe actuellement, personne ne le sait, et vous m'avez dit, si on veut voir la lutte, il faut aller sur les applications Internet. Quoi.
Alors, voilà, c'est de toute manière symptomatique de ce déficit d'image et déficit de représentation de la lutte. On ne sait pas où le regarder. On ne sait peut-être pas vraiment même à quoi ça consiste. On n'est pas conscient de la technicité en fait, donc, du sport. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, vous voulez regarder la lutte. Il suffit d'aller sur le site de la Fédération internationale qui s'appelle United World Wrestling. Wrestling, c'est le mot anglo-saxon pour lutte. Et vous allez trouver en fait, un calendrier avec tous les événements. Et vous allez voir en fait, que c'est un sport qui est complètement digitalisé. Tous les championnats continentaux, tous les tournois majeurs de classement en fait, sont streamés, diffusés en live. Et ensuite, après la compétition, vous pouvez accéder intégralement donc, au replay de tous les matchs, de toutes les disciplines. Donc voilà, il y a un gros, gros potentiel d'exposition, mais qui n'est pas connu. Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, les championnats d'Europe ont commencé cette semaine à Zagreb, en Croatie. Eh bien, allez voir sur United World Wrestling, vous allez les voir en live.
Alors, de mémoire, on a parlé des frères Guénaud, mais je crois qu'il y a eu un Français qui a exporté la lutte à l'étranger, c'est Daniel Robin.
Grand lutteur, grand lutteur,
connu,
immense lutteur, voilà, qui est décédé il y a malheureusement peu de temps, en fait.
Oui.
Voilà.
Ouais.
et effectivement qui a été un des grands messieurs donc, de la lutte. Mais il y a une jeune génération donc, qui arrive, en particulier donc, chez les féminines, avec une athlète prometteuse hein, qui a été déjà championne du monde en junior, qui a été championne du monde en senior, qui a connu des blessures également, qui s'appelle Kumba Larocq.
Oui, et c'est elle était dans la délégation de Lima.
Exactement, ouais. Donc c'est chances de médaille olympique donc, à Paris. Elle est programmée pour ça.
Alors, on a parlé un tout petit peu des règles. Ça dure combien de temps un match de lutte?
Ah, ça dure 6 minutes, en fait. Deux matchs de 3 minutes séparés par 30 secondes de pause.
Deux fois 3.
Alors, si vous allez au terme du combat, le combat peut s'arrêter avant, on peut voir par la suite donc pourquoi. C'est très long, 6 minutes. C'est un sport qui est extrêmement cardio-intensif, qui nécessite donc beaucoup d'endurance. En fait, au niveau de l'intensivité, on est sur des spécificités qui sont de l'effort pur, comme du 400 mètres, du 800 mètres, de l'haltérophilie pour tout ce qui est arraché. Voilà, donc c'est un sport d'explosivité. Donc sport complet, sport qui développe des qualités donc athlétiques indéniables, et malgré tout donc sport de monsieur tout le monde. La progression se fait dans la durée. C'est un sport qui est gratifiant. La lutte vous donne ce que vous y mettez.
C'est ce qu'on travaille en priorité dans vos entraînements. Bon, je suppose que vous avez des créneaux 7 jours sur 7.
Alors non. On a des créneaux en fait pour les adultes donc en semaine en fait donc, du mardi au vendredi. Oui. Voilà, donc 6 créneaux d'entraînement, un créneau enfant donc le week-end donc le samedi. Qu'est-ce qu'on développe? On travaille selon deux axes en fait, un axe technique et un axe effectivement donc conditions physiques. Voilà. Alors sur l'axe technique, la lutte c'est un sport qui est très riche d'un point de vue technique. On s'est tous battus avec nos frères, nos cousins, et on s'est tous bagarrés. Lutter c'est pas se bagarrer. Il y a un répertoire technique immense qui est d'ailleurs très attractif pour le MMA actuellement. Pour vous donner une ouverture là-dessus, en judo, je pense que vous avez à peu près 150 techniques de base. Le grand livre de la lutte en base c'est 350 techniques. Ce qui veut dire que finalement si vous tombez amoureux de ce sport, vous pouvez y rester de très longues années sans avoir vraiment l'intention d'en avoir fait le tour.
Oui, parce que c'est un sport qu'on peut pratiquer jusqu'à 30, 35 ans sans problème. Je parle en compétition.
En compétition?
Oui.
Alors, en senior, effectivement, donc on est senior jusqu'à 35 ans. Et ensuite, les vétérans A peuvent encore lutter en championnat de France, donc jusqu'à 42 ans à peu près.
Alors, il y a des catégories de poids. Ça, c'est peut-être la problématique. Il faut faire le poids. Donc, ça veut dire qu'il faut suivre une hygiène de vie. Il faut faire attention à ce qu'on mange.
Bah, c'est pas une problématique. C'est partout dans tous les sports.
Dans tous les sports de combat, oui. Mais c'est quand même une des problématiques.
C'est un sport d'éducation. Sens où effectivement ça vous donne effectivement des principes diététiques,
le foot,
des
si
pratiques
tu fais 500 nutritionnelles. De plus, c'est pas très grave, un sport de combat ça peut être important.
Pas très grave, en tout cas on critique quand même. Non, je pense que ça c'est. Si tu veux être à fond, t'es à fond dedans, t'es amoureux du sport, je pense que tu peux faire
ça. Oui, mais ça aura moins de conséquences que s'il fait les 500 grammes.
Il faut être au poids le jour J. Il faut être au poids le jour J. Donc les catégories de poids, donc elles sont là en fait pour homogénéiser bien évidemment les différences morphologiques. Donc une des signatures de la lutte que je voulais mettre en avant, on en a discuté avant l'émission, c'est que c'est un sport qui est open. Absolument tout le monde peut lutter.
Donc, qu'on soit grand, petit, qu'on fasse 4
kilos. Du moment que tu as les techniques, en fait, c'est ça. C'est du moment que tu as les techniques, la bonne approche, l'explosivité ou non, ça dépend. Chacun a son profil.
Chacun a son profil. Il n'y a pas de morphotype du lutteur. C'est un peu comme un jeu de poker. Par votre ADN, votre génétique, votre naissance, vous recevez un jeu de cartes. Et le but, c'est de jouer le mieux possible avec ses atouts et de compenser, en fait. Donc, c'est manque.
Et puis, je pense que le mental est hyper important aussi. On se prépare en conséquence.
Oui, alors c'est une des valeurs fédérales, effectivement, c'est l'engagement. Une autre, c'est la persévérance. Donc, c'est forcément donc un sport donc de long terme. C'est un sport de découverte de soi. Encore une fois, quand on lutte, il n'y a pas d'instrument. On est seul dans un cercle avec ses mains, uniquement donc ses mains. Donc, ça vous apprend des choses, en fait, sur qui vous êtes réellement, au fond de vous. Ça vous apprend des choses également sur vos réactions donc, en situation donc, de stress. C'est une discipline qui se pratique constamment, en fait, dans l'instabilité. Rien n'est stable en lutte. Tout peut se retourner au cours du combat. C'est un sport qui développe aussi des qualités intrinsèques, les fameux soft skills. Le lutteur, il est à l'aise, en fait, en situation instable. Donc, il est très, très à l'aise aussi en face d'une situation de crise. Il sait très bien aborder une situation de crise avec du recul, avec de la confiance. Voilà, donc c'est des choses qui impulsent des valeurs humaines en termes de confiance, en termes également d'humilité.
Comme beaucoup de sports de combat. Ouais.
Les Américains ont une jolie maxime, en lutte, il n'y a pas de perdants, il n'y a que des gagnants et des apprenants.
Mmh. Et puis, il y a aussi un peu d'intox quand même quand on rentre sur le... Sur le parquet,
sur le cercle.
C'est le parquet, sur le cercle qu'on dit.
Sur le tapis.
Sur le tapis, voilà.
Alors, c'est pas un tatami, ouais, c'est un tapis.
Oui. Donc, il y a un peu d'intox entre les concurrents, comme ça se fait dans tous les sports de combat.
Alors, cela dépend en fait du niveau.
Faut
de
montrer qu'on doute pas, qu'on est le plus fort. Que...
Oui, bien sûr, mais il y a beaucoup de concentration aussi.
Oui, bien sûr.
Beaucoup de concentration.
Ça en fait partie, hein.
C'est un sport en fait de décodage de l'autre, en fait. Donc voilà, il y a plein de petits signaux qui permettent en fait d'analyser assez rapidement son adversaire.
Et l'entraîneur, il est comment avant? Il parle beaucoup, il laisse son sportif de côté, tranquille.
En compétition.
Ouais, c'est le feeling. Hein. Ouais.
Alors, je pense que c'est comme dans tous les sports, en fait, il y a une relation singulière qui se tisse entre un compétiteur et l'entraîneur. Chaque compétiteur, en fait, est unique. Il y a des compétiteurs qui se gèrent très bien tout seuls, d'autres qui ont besoin d'avoir leur coach à leur côté, d'autres qui ont besoin d'avoir leur équipe autour d'autres, puisqu'on se déplace en compétition, donc en équipe. Donc, voilà, donc ça fait partie du team spirit, en fait, en compétition.
Vous êtes donc un club formateur ou vous êtes aussi un club qui formait des lutteurs et lutteuses de haut niveau?
Alors, on n'aura pas cette ambition, puisque le haut niveau est pris en charge, comme dans toutes les fédés, par la fédé de lutte, donc à travers ces pôles. Donc, il y a un pôle à Font-Romeu, il y a un pôle en Dijon, et ensuite qui ouvre ensuite donc, sur l'INSEP.
Oui, l'INSEP aussi.
Mais bien sûr, mais effectivement, il faut bien partir de quelque part, et donc on est club formateur, éventuellement donc, d'athlètes.
Et vous avez vu des jeunes qui ont percé, qui ont réussi à...
Alors, même des jeunes prometteurs.
On doit être quand même un dirigeant épanoui quand on voit ça, comme ça. Un jeune qui progresse et qui arrive à...
Une jeune,
à un très bon lutteur. Ou une jeune, oui.
Alors, je vais répondre différemment.
Ouais.
C'est-à-dire que moi, en tant que président de club, mon ambition n'est pas forcément de former des compétiteurs, mais c'est que tous les gens... Que tous les gens de mon club soient bien, se sentent bien et s'épanouissent au club. Dans leur niveau...
Hommes et femmes,
dans leur niveau de pratique, qui peut être,
le but du sport,
qui peut être une pratique loisir ou une pratique compétitive. Donc, on essaie de donner le meilleur à chacun des publics. Et évidemment, sur la filière compétition, on a une politique active donc, de formation et de développement donc, par la compétition.
Très bien. Allez, on marque une petite pause musicale. Hein. La compagnie créole, c'est bon pour le moral, comme pour la lutte.
Ah, excellent.
Allez, y va.
Une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien biguiner. C'est bon pour le moral. 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 Si t'as doudou bien balancé, couple et boss super sapé, et que tu cherches à t'amuser, la compagnie va te chanter. C'est bon pour le moral.
Chanter.
C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon bon. C'est bon bon. C'est bon bon. C'est bon bon.
Swinger.
Allez, 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 allez.
Si tu veux te faire plaisir, faut surtout
c'est bon pour le
Nicolas, ça donne le peps, hein, des chansons comme ça.
Ça s'entraîne. Hein.
Ah, comme ça, on peut aller carrément sur le tapis après. Hein. Voilà. Bon, alors, s'il y a des gens qui sont intéressés par venir vous rejoindre après cette émission de ce soir, ils attendent la rentrée maintenant ?
Non, pas du tout.
Ils peuvent venir ?
Ils peuvent venir maintenant.
Oui.
Donc, le recrutement, en fait, à Paris Lutte Olympique se fait au fil de l'eau, donc tout au long de la saison.
Donc, dans votre salle, dans le 11e, ils viennent. Hein.
Alors, en fait, voilà, l'idée, ouais, c'est de passer par le site web pour une première approche sur
Internet,
le club.
Paris Lutte Olympique.
Voilà. Paris Lutte Olympique, voilà. Et donc, il y aura une rubrique séance d'essai où ils vont pouvoir avoir un numéro de contact, mon numéro. Donc, l'idée, c'est de prendre rendez-vous pour une séance d'essai. On a beaucoup de demandes. Hein. On a eu plus de 400 séances d'essai depuis le début donc, de l'année.
Et vous verrez, quand il y aura des icônes, des médaillés, vous verrez, ça sera encore... Ça sera encore plus important.
J'espère. On croise les doigts.
Ouais, mais femme.
Voilà. Donc... comment s'inscrire au club? On a plusieurs donc, formules, donc ce qu'on appelle des forfaits saison, différents niveaux de forfaits.
C'est combien le prix en moyenne?
Alors, on a la volonté d'être un sport économiquement accessible. Hein. Donc, pour les salariés, c'est 240 euros, licence incluse, pratique illimitée,
donc,
sur 11 mois.
Compétition et entraînement.
Oui, voilà. Sur 11 mois. Donc, on fonctionne entre septembre et fin juillet. Pour les étudiants, 170 euros. Et pour les enfants, les enfants et scolaires jusqu'au lycée, 130 euros pour la saison. Et pour des gens qui veulent nous rejoindre en fin de saison, à partir de mi-mai, on a un tarif fin de saison à 130 euros qui permet donc de s'entraîner jusqu'en juillet. Donc tous ces tarifs, encore une fois, licence incluse, avec assurance incluse et pratique illimitée.
Oui, et puis l'équipement, il n'est pas cher.
Non, il faut très peu de choses pour lutter. Essentiellement des vêtements près du corps. Derrière ça, il y a une idée de sécurité.
Le textile a beaucoup changé, non ?
Alors,
on peut accrocher facilement maintenant ?
L'idée, non, on n'agrippe pas le textile
sur
la peau. Donc, en fait, il faut un textile, comme c'est assez cardio-intensif, on transpire. Donc, un textile drainant. Le mieux, c'est du lycra, un textile compressif. Sur le bas du corps, n'importe quel short ajusté. Donc, non, le maillot de lutte, c'est pour la compétition, mais ce n'est pas pour l'entraînement.
D'accord.
Et donc là, voilà, avec ça, je pense qu'avec une trentaine d'euros, vous êtes équipé.
Une paire de chaussures adaptées.
Et oui, voilà.
On peut faire plusieurs saisons.
Le seul équipement spécifique, effectivement, ce sont des chaussures techniques, des chaussures de lutte, donc qui sont des chaussures assez particulières, qui prennent la cheville, donc votre cheville est protégée dans toutes les directions de poussée et avec une structure en fait particulière qui vous permet d'avoir des appuis qui sont très précis et très réactifs. Dit en termes plus simples, on lutte beaucoup plus rapidement et beaucoup plus précisément avec des chaussures de lutte au pied que pieds nus. Et il faut coûter un budget aux alentours de 70-75 euros pour une paire qui va vous durer deux saisons.
Pour un petit bout de temps,
deux saisons et demie, ça dépend de l'usage.
Est-ce que vous êtes en partenariat avec les écoles? Est-ce que vous avez des journées portes ouvertes avec les scolaires ou pour des actions caritatives, par exemple?
Alors,
pour venir s'initier justement à la lutte.
Très bonne question. Alors, déjà, sur les partenariats réguliers, je crois que depuis 2007, on a eu à cœur de travailler donc avec le monde universitaire. Donc, pendant un certain nombre d'années, donc, on a eu un partenariat donc, avec l'Université Paris-Dauphine. Et aujourd'hui, nos partenaires...
Oui, ce que j'ai vu sur le site en préparant l'émission.
Ouais. Nos partenaires, en fait, ce sont les Sciences Po Paris. Donc avec qui on a un partenariat donc depuis 2016 qui se traduit en fait par l'ouverture de créneaux en UE qui sont donc opérés donc par Paris Lutte Olympique pour les étudiants donc de Sciences Po. C'est quelque chose que moi je souhaite développer, hein, cette ouverture vers le monde universitaire. Paris est une ville universitaire, la lutte c'est très international, il y a beaucoup d'étudiants internationaux qui viennent à Paris, donc là il y a effectivement un potentiel de relais sur la pratique.
Mais là, c'est la deuxième casquette qui parle, là. Non, parce que vous êtes aussi, vous avez des actions au comité aussi.
Alors voilà, donc
voilà, c'est la deuxième casquette qui parle. Là.
J'ai une casquette de vice-président du comité régional donc d'Île-de-France. Donc évidemment attaché donc au développement de la lutte sur tout le territoire francilien, à Paris également, donc avec un comité donc départemental qui est très actif et voilà qui agit pour développer la lutte sur le territoire donc parisien. Alors la lutte à la Fédé de lutte en fait, donc il y a non seulement la lutte olympique, mais il y a des disciplines associées, donc oui. qui sont le grappling oui. et le sambo, qui est une forme donc de.
C'est quoi, c'est des formes de prise différentes?
Alors
aussi, non
le sambo, donc c'est ouais. un art, enfin un sport de combat donc russe où donc il y a gilet qui est un mélange en fait donc de lutte et de peut-être du judo, puisque en fait effectivement il y a une préhension donc sur le judo.
D'accord.
Voilà. Donc ça c'était pour les partenariats donc académiques. Sur les partenariats donc avec les écoles, non. Là on délègue en fait le relais avec le niveau scolaire donc aux comités départementaux. Donc l'idée c'est que les élèves puissent avoir des cycles de lutte donc de six semaines en fait donc en milieu scolaire, et si ça leur plaît effectivement de leur fournir derrière des clubs relais pour leur permettre de continuer à développer et à pratiquer, développer leur passion donc, et à pratiquer. Et puis des actions portes ouvertes, des actions caritatives, bon, bah, régulièrement, hein, il y a des semaines olympiques, il y a des journées olympiques, le Téléthon.
Oui, oui.
On
bah
est
oui,
très associé voilà, au Téléthon. Sur les actions d'ouverture aussi, ça va peut-être vous surprendre, on ne fait pas que de sport en fait, à Paris Lutte Olympique. Moi, je suis très attaché en fait, au dialogue avec d'autres univers, en particulier donc, l'univers artistique. Donc, on a accueilli en résidence, par exemple, des chorégraphes qui venaient monter des spectacles où soit la lutte, soit les gestes de lutte pouvaient être intéressants. On a travaillé avec un partenaire avec des photographes également. On a accueilli par exemple pendant deux saisons donc une photographe, une grande photographe suédoise qui est venue faire un projet donc photographique avec nous. Bref, tout ce qui peut décloisonner également un petit peu le sport nous tient à cœur.
Et au niveau d'arbitrage, comment ça se passe? Ça va? Il n'y a pas trop de contestations? Il y a des vocations pour être arbitre en lutte?
Ah, l'arbitrage. Alors,
eh oui, c'est toujours un problème délicat.
C'est très particulier parce que bah, déjà, il faut faire un choix parfois entre être athlète et être arbitre. Comme dans tous les sports, mais plus que dans. Enfin, particulièrement en lutte, voilà, pas d'arbitre, pas de match. Donc c'est absolument donc nécessaire. C'est très complexe d'être arbitre.
Il n'y a pas beaucoup de contestations comme en boxe parfois, comme en judo.
Il y a de la passion, mais il y a également du respect pour le corps arbitral.
Ouais. On accepte la décision quoi qu'il arrive.
Bah, t'es obligé.
Alors, en fait, il y a trois. Vous savez, il y a trois arbitres sur un tapis. Il y a un arbitre central, il y a un juge et il y a un chef de tapis. Donc, les décisions sont consensuelles. Après, effectivement, ce n'est pas une séance exacte et il y a beaucoup de passion.
Allez, on a parlé foot, on a parlé lutte. On va finir avec Valentin pour le restant de l'actualité donc, sportive, effectivement. Hein. Abou nous a quittés, mais comme il est aussi en politique, il voulait suivre la conférence du président Macron.
De notre
donc c'est
président
pour ça.
Macron.
Ouais, c'est pour ça. Mais enfin, l'événement, c'était sur mon Paris Sport ce soir. Faut le dire.
C'est voilà. Ça, c'est ça. Allez, c'était plus intéressant en tout cas.
Le basket, donc, effectivement, après le volet, puisque c'est fini pour le volet. Hein,
c'est terminé,
on
c'était terminé.
Il y a 15 jours. Hein. Paris, donc, 9e, et puis Plessis-Robinson, 12e de la saison régulière. On a fini donc, avec leur saison.
On passe sur une nouvelle saison, nouvelle page.
Ouais. Alors, le basket, lui, continue. Et justement, là, on parlait qu'il y a eu un super match de foot la semaine dernière à Charletti. Il y a eu aussi un super match de basket. Tu y étais. Victoire, en tout cas. Donc, contre Limoges, 88-80 pour le Paris basket. Et tellement en forme qu'ils ont remis ça à Carpentier ce week-end en battant Nancy 99-91.
Ouais, beau match de basket, je n'irai pas jusque-là.
Limoges, non, quand même.
Hein?
Grande affiche, Limoges.
Non. Franchement, non. C'est quand tu prends tu prends le 12 et le 13e, ça fait pas rêver. Limoges,
Limoges qui a fêté, on parlait de Marseille qui va fêter sa 30e année de Ligue des Champions. Enfin, Limoges hein, qui a fêté son club aussi, donc la 30e année de sa victoire en Ligue des Champions de basket. C'était les premiers.
Ça fait 30 ans et ça va être compliqué de récréer ça parce que Limoges, de la mi-temps, le match était plié, on va pas se mentir. Il y a eu une accélération de Limoges, une remise en rythme un peu vers la fin du troisième quart, ce qui leur a permis d'aborder le quatrième avec une envie, une ambition, mais malheureusement ils avaient deux gros plays, deux grosses actions à concrétiser pour essayer de revenir. Ils étaient très, très adroits à trois points, notamment, contrairement à Paris qui avait plus de mal, mais qui était quand même très, très adroit. Franchement, il n'y avait aucun problème. Limoges, vraiment défensivement, c'était catastrophique. D'ailleurs, Nicolas Lengue, leur capitaine et joueur de l'équipe de France, et leur coach l'a dit en conférence de presse, que leur coach a même dit que des fois, il pointe un peu du doigt certains joueurs, certaines actions qui ont été mal faites, et les joueurs commencent à bouder, à ne pas vouloir répondre, tout ça. Donc vivement que ça se termine. Nicolas Lengue, le capitaine, a dit que c'était catastrophique d'en arriver là et que ça l'énervait de jouer à ce niveau-là et de montrer ce niveau-là, surtout quand on est à l'Accor Arena, on est à Paris, on est le match, le main event à voir avec maintenant Boulogne cette saison. C'est dommage que oui, on finit 88-81, mais ça ne représente pas du tout l'aspect du match. Et face à Nancy, oui, ils ont remis ça. Juan Bergarin qui va partir en NBA la saison prochaine au Celtic, c'est absolument en feu. On a une action là face à Nancy où il nous fait un contre, il fait toute la moitié de terrain, il dunk. Franchement, c'est un athlète très, 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 très intéressant et très performant. Les vétérans s'impliquent bien. Franchement, le Paris Basket finit très bien sa saison. Oui, c'est dommage que ça termine bien sa saison et que ça l'a mal commencé. Et qu'il y a eu un petit creux au niveau janvier-février. Bon, c'est comme dans tous les sports, il y a un petit creux après les fêtes, c'est normal, alors qu'on a bien mangé. Mais ouais, je pense que ça va revenir fort la saison prochaine avec des nouveaux jeunes. Un nouveau groupe qui se crée à l'Adidas Arena, leur nouvelle enceinte qui sera carrément un centre commercial et tout. Donc on verra aussi ce que ça fait. Il y a plein d'investissements qui vont arriver, donc ça promet que du bon.
En tout cas, on les invitera avant la fin de cette saison. Donc le Paris Basket qui est 9e avec Rouen, 48,3. C'est toujours Monaco qui est en tête, hein, 83,3. Devant Boulogne-Levallois, 65,5. Boulogne-Levallois qui a été battu d'un tout petit point à Limoges, donc 84-83. À noter aussi la défaite de Nanterre devant Bourg-en-Bresse, donc 93-81. Du coup, Nanterre, ils sont 14e avec 41,4. Et c'est Fos-sur-Mer donc, qui ferme la marche avec 28,6. Donc fin de saison un petit peu aussi difficile pour Nanterre, enfin qui devrait se maintenir quand même.
Oui, Nanterre devrait se maintenir sans problème. Le Monaco qui tient malgré tout. Arrive à, qui a pris une bonne avance. Les deux victoires face à Boulogne leur ont permis de prendre une très 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 bonne avance. Et oui, voilà, 25 victoires contre 19 contre Boulogne, c'est dur pour Boulogne, mais face à Limoges, où c'est ça, c'est que Limoges a réussi à se remettre en marche, et c'est vrai qu'ils ont pris, enfin Victor Wembanyama notamment, on en parle souvent, mais là on va en parler en mauvais, a pris un buzzer-beater dans les derniers instants sur sa tête à 3 points, ça y a marché, hein, mais les arbitres l'ont pas vu, mais franchement c'était un très gros match avec une grosse intensité. À côté on avait de la NBA, donc les fans de basket étaient ravis, on avait le début des playoffs, Sixers Nets, et à côté on pouvait avoir un Boulogne-Limoges que ne faisait pas rêver suite à leur prestation face à Paris, mais là ils ont très bien terminé. Et Limoges, peut-être, pourquoi pas, la surprise de fin de saison. Là, c'est un peu joué, donc on n'attend plus que les playoffs aussi français de la Big League Elite. Donc, on va voir comment ça se passe. Et ouais.
En tout cas, Paris ne fera pas les playoffs.
Hein. Ah non, ça ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème.
Voilà, ils finiront leur vacances, leur saison un peu plus tôt, ils seront en vacances un peu plus tôt, ce qui nous permettra donc
de les avoir nouveau groupe,
pour la fin de saison. Alors, il y a une bonne surprise quand même dans le basket, on parlait des filles, hein, c'est que les filles du basket ont obtenu un 13e succès en Coupe d'Europe féminine, puisque les filles de Villeurbanne succèdent aux filles de Bourges en Eurocoupe, en ayant battu donc les Turcs de Galatasaray 85-57 à Istanbul, après une nette victoire à domicile 95-56. Ça, c'est un réel bel exploit du sport féminin français.
C'est un exploit, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est une surprise, parce que le basket féminin est de plus en plus en constante évolution. On en parle de plus en plus. Il y a des émissions, des podcasts, plein de choses. Et Tony Parker, qui est le président de l'ASVEL, l'avait dit à beIN Sport quelques 2-3 jours avant, qu'il avait, après son annonce qu'il est, il sera au Hall of Fame dans quelques semaines, il sera introduit au Hall of Fame du basket américain à l'NBA. Il avait dit que ça fait quelques années qu'il investit, que tout le monde lui avait dit, donc quand il avait repris en 2016-2017, que c'était une hérésie, que ça servait à rien, que franchement les gens venaient gratuitement et devaient être payés carrément pour venir à Villeurbanne pour regarder du basket féminin. Maintenant, il a réussi à mettre en place les places payantes. Toutes les places sont payantes à l'ASVEL Villeurbanne pour les hommes et les femmes. Et ça rapporte, c'est plein tous les soirs. Donc, il y avait un investissement qui a été mis en place, des joueuses qui ont été recrutées, un groupe qui a été créé. Et ça fait quelques saisons qu'on se dit qu'elles sont à deux doigts des portes des finales, de l'Europe, que ça commence à jouer l'Europe, ça se qualifie, non. Et là, franchement, les deux matchs, ils l'ont dominé. Galatasaray, qui, le basket turc féminin aussi, qui est très, très en vogue. Mais là, franchement, il n'y a pas eu match sur les deux confrontations. Ouais. Et bravo à Elf, tout simplement. Et ça fait plaisir de... Ouais. Les hommes, on a eu du mal avec l'Euro, on a eu du mal avec tout ça. Et ça fait plaisir que Villeurbanne, cette saison, côté hommes, c'est un peu plus compliqué. Côté femmes, c'est une réussite exceptionnelle. Et on espère que ce sera dans quelques années, que ce sera encore pareil.
En tout cas, le basket est le sport le plus titré au niveau des clubs hommes et femmes. Allez, on parle de moto avec Rins, donc qui remporte le Grand Prix des Amériques. Et puis, il y avait aussi les mythiques 24 heures du Mans, gagné par le trio Hogg, Dimeglio et Tecker. Troisième succès, donc, après 2018 et 2020 pour la moto Honda.
Oui, la moto GP, on a Fabio Quartararo qui a fini troisième. Alors qu'il avait un début de week-end très compliqué, il avait fait encore une chute dans la course au sprint. Donc il y a quand même 42 courses cette saison pour les pilotes de MotoGP, donc ça va être très compliqué. On a Francesco Bagnaia, l'italien de la saison dernière, champion du monde, qui a encore chuté aussi pendant la course. C'est de plus en plus compliqué, ça ne suit pas. Je pense que ça ne va pas suivre. La course au sprint est très décriée déjà en Formule 1, mais en MotoGP, le format n'y va pas marcher, je le sens. Après, il y a des bonnes surprises, il y a des ajustements à faire. Et Johan Zarco, qui a fini 7e. Donc, loin de ses standards depuis le début de saison, il finissait 3e, 4e, 2e. Mais là, quand même, 7e, c'est très encourageant. Il était habitué à la 15e, 10e place ces dernières saisons. Donc, et puis Fabio Quartararo, ça a dû lui faire un bien fou de revenir 3e sur le podium. Voilà, donc c'est ça. Et puis les 24 heures du Mans, oui, bah, 3e fois consécutive.
Des fidèles, des habitués.
Des fidèles, des habitués, des grands, grands sportifs. Vraiment des légendes, et quand tu gagnes déjà une fois les 24 heures du Mans en moto ou que ce soit en hypercar, t'es déjà dans la légende, mais trois fois ça montre à quel point ils sont concentrés et que le niveau est fort. Et il faut faire 24 heures déjà en voiture, mais 24 heures en moto c'est encore pire, je pense.
Allez, un tout petit mot de tennis, on prépare Roland Garros à l'Open de Monte Carlo, sur terre battue, une cascade donc Nadal forfait, une cascade aussi donc de têtes de série qui sont tombées, et c'est Rublev le russe qui s'est imposé devant quelqu'un qu'on connaît, le Danois Rune, en 3-7, 5-7, 6-2, 7-5.
C'est ça, pourtant Tsitsipas, on le voyait déjà arriver en finale, Medvedev aussi, on le voyait arriver en finale, Monte Carlo, c'est toujours un tournoi qu'on aime bien parce que c'est sur la terre battue, c'est à Monte Carlo, Monaco, il y a cette image, on a vu Pierre Gasly, Charles Leclerc qui était présent, et ouais, Rune qui on s'est dit peut-être enfin la première victoire de Rune, et malheureusement non, et c'est ces belles petites surprises qui nous apportent que du bon pour Roland Garros. Nadal, je pense que c'est pas plus mal qu'il ne soit pas allé à Monte Carlo, comme tu le dis, il était forfait, mais je pense que c'est pour mieux encore se préparer parce qu'on se souvient qu'il a joué il a joué sous infiltration quand même à Roland Garros, c'est un habitué de faire ça, et franchement ça va être je suis impatient de voir sur Roland Garros parce que il pourrait avoir des très très grosses surprises, que ça soit masculine ou féminine. Franchement, à voir. Là, en plus, les féminines, il y a le master de sur terre battue de Madrid qui arrive, qui est aussi très très important comme nous au Monte Carlo avec les hommes. Donc, à voir. Donc, très très bonne première victoire. Pour le russe, mais on verra bien ce qui se passe pour la suite.
Allez, on termine avec le vélo. Donc Pogacar qui a écrasé la concurrence, il avait survolé par Nice, il avait survolé le Tour des Flandres, il en a fait de même en gagnant en solitaire l'Amstel Gold Race, sans oublier quand même la belle victoire, même s'il a eu un peu plus de chance que ses concurrents, du néerlandais Van Der Poel, dans le Paris-Roubaix, ce qui lui permet de doubler avec sa victoire au Milan-San Remo.
Oui, Pogacar, c'est un nom que beaucoup sur les réseaux doivent revoir souvent et de se dire ouais, c'est qui Pogacar. Je vous invite à aller regarder.
C'est le meilleur coureur du monde.
Mais ouais, c'est là actuellement, il est imbattable. Hein. Vraiment, il est injouable. Ça a l'air d'être simple pour lui, mais je pourrais faire attention quand même parce que je sais que, comme tu dis, il a fait le Paris-Nice. Là, il gagne encore. Mais
on avait perdu l'habitude en vélo de voir des coureurs comme ça.
Oui, qui dominent un petit peu ou qui sont sur leur prime. Et c'est vrai que. Faut faire attention quand même à son emploi du temps aussi à lui, parce que je crois qu'il est mis sur le circuit de le parcours de Liège, ou je ne sais plus, j'ai entendu.
Il est encore sur deux.
Et tout le monde se pose la question. Il y en a un des deux, j'ai oublié les noms, je vous avoue, mais que il est un peu. On se dit oui, on l'a annoncé pour parce que maintenant c'est un nom tellement dominant qu'on veut le voir sur tous les circuits. C'est normal. C'est comme tu le dis, c'est un joueur qui prédomine, qui est performant. Ça a l'air simple pour lui, un bon vivant, 24 ans, un jeune. Ça fait plaisir, ça.
Ils ont un enthousiasme, du plaisir, comme Van Der Poel, comme Van Aert.
Ouais, Van Der Poel et tout, ça fait plaisir à voir. Ouais, c'est ça, c'est... Bah, on avait dit, hein, voilà. On se souvient, il y avait Abou qui en avait parlé cet été, et puis Thomas Louis aussi un petit peu, que ça, il y a un nouveau vent de fraîcheur, un nouveau groupe de jeunes qui arrive, et Pogacar était l'exemple parfait. Et bon, c'est clairement un cyborg, hein, sur ce qu'il est en train de faire, et on espère que c'est pas là pour s'arrêter, parce qu'il est dans son prime, et autant en profiter un maximum.
Merci, merci Valentin,
mais
merci
de rien.
Nicolas. Hein, vous voyez, on
merci
a été
beaucoup,
très
Nicolas,
complet.
Pour la
lutte. C'est une émission omnisport. Hein, on parle foot, mais on parle aussi de tous les sports.
Ben, merci pour votre invitation et puis ben, longue vie à mon Paris Sport.
Et puis l'émission, vous pourrez la retrouver comme toutes celles des semaines précédentes
en podcast.
En podcast très rapidement. Hein, voilà, avec une belle photo sur vos réseaux. On termine. Vous avez un mot de fin.
Oui, ne vous mettez pas d'œillard si la lutte vous démange. Venez essayer, vous n'imaginez pas ce que vous allez découvrir.
Très bien, merci en tout cas Nicolas, merci à Jason et à Gaël pour la mise
les maestros
en
à la
main
manette.
Ouais, de cette émission, les maestros à la manette. Bonne soirée à toutes et à tous. Tiens, on va finir avec du rap parce que je sais qu'il y a beaucoup de clubs qui l'utilisent pour rentrer sur le tapis. Alors c'est Silento qui l'avait sorti.
Watch Me.
Watch Me, voilà. Donc c'était en 2015. On finit là-dessus. Bonne soirée et à la semaine prochaine. On parlera de sport féminin, tiens, la semaine prochaine. Bonne soirée. Watch me, nae, nae. Why me do it? Now watch me whip, kill it. Watch me, nae, nae. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me, nae, nae. Can you do it? Now watch me, ooh, watch me, watch me, ooh.
Paris FM.